Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans Le Climat part en live. J'espère que vous nous voyez correctement et que vous nous entendez. N'hésitez pas sur la technique, comme d'habitude. Est-ce que vous allez bien ce soir? Et ce soir, je suis avec Maxence. Est-ce que ça va, Maxence?
Bonsoir, Rodolphe. Ouais, ça va super bien. Merci pour l'invitation.
Alors, Maxence, peut-être que tu peux commencer par te présenter pour ceux qui enfin, te connaîtraient pas, ce qui serait un peu scandaleux, mais quand même.
Oh bah... que dire, à l'origine je suis ingénieur chimiste spécialisé en cycle du combustible nucléaire. J'ai pas fait beaucoup de technique dans ma carrière, j'ai fait un peu de physique neutronique et thermohydraulique, mais finalement j'ai rapidement abandonné ça. Et depuis 2016, maintenant je m'occupe plutôt de relations internationales dans l'énergie, J'ai passé un peu de temps à l'ambassade de France à Londres au service nucléaire et puis maintenant je travaille au CEA, qui est un grand organisme public de recherche actif dans plein de domaines, mais notamment les énergies bas carbone, nucléaire, solaire PV, batterie, hydrogène, système énergétique, tech éco de l'énergie, etc. Et en parallèle de ça, depuis quelques années, maintenant j'ai une activité personnelle de vulgarisation, pédagogie, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, sur les questions énergétiques et climatiques, plus énergétiques d'ailleurs que climatique, sur les réseaux sociaux, via des confs, et un bouquin que j'écris il y a 2 ans.
À 2 ans déjà?
Ouais, ça passe vite, c'était en 2022. Je l'ai là.
Tu veux le montrer, je vais le mettre dans le chat aussi. Ouais, je
Euh,
l'avais lu à l'époque. Beau travail de synthèse
merci.
notamment.
Et en parallèle de ça, du coup, récemment, j'ai aussi rejoint l'Institut Montaigne, qui est un think tank de politique publique. Donc voilà, ça c'est à côté du boulot et bénévole.
Eh ben. Que d'activités, que d'activités. Et la vulgarisation sur Twitter, ça va, c'est facile?
Ouf. À tes souhaits. Ouais, de moins en moins là, c'est un peu tendu quand même. Les débats partent souvent en quart de tour avec des positions bien tranchées et chacun tient son camp.
Alors on a plusieurs remarques sur Appli Flamanville D et joyeuse autorisation de lancement de l'EPR de Flamanville. Une petite
Ouais.
remarque sur cette actualité.
Bah, ça a été longuement attendu, donc là c'est une excellente nouvelle. C'est pas la fin, hein. Maintenant le réacteur va devoir être chargé, il va y avoir toute une étape de montée en puissance avec tout un tas d'essais. Il est possible qu'il y ait aussi plusieurs arrêts au départ pour faire des essais. Puis le matériel aussi a changé au premier essai, mais là en tout cas maintenant c'est lancé, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est le quatrième EPR qui démarre dans le monde. Après les EPR de Taishan et l'EPR de Olkiluoto en Finlande. Il y en a 2 autres en construction à Hinkley Point au Royaume-Uni. Donc voilà, espérons que les difficultés soient essentiellement derrière et que maintenant on puisse aller de l'avant là-dessus.
Le quatrième qui se lance, donc ça fait deux paires, deux paires.
C'est ça, 2 paires 2 paires.
Il y a Gabri If Enzel qui demande, il paraît que tu vas donner un cours à l'ONSTAR en filière électronucléaire?
Ah bah, il y en a qui sont bien renseignés. Ouais, j'ai pas du tout communiqué dessus, mais effectivement, je donnerai un cours à l'ENSTA normalement en septembre prochain.
C'est la première fois que tu vas enseigner?
Non, 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 je donne actuellement des cours dans le Master Energy de PSL, donc entre les mines et Chimie Paris, au CNAM et à HEC, dans un master. De durabilité de HEC.
Et alors, t'aimes bien l'enseignement?
Ouais, c'est sympa, bah, ça permet de sortir un peu de son bureau, de rencontrer les étudiants, de voir un peu les questions qui se posent et aussi de tester un peu les discours, voir comment est-ce qu'on peut expliquer ce qui passe, ce qui passe pas, avoir un échange aussi avec eux, puis voir comment leur connaissance des sujets énergétiques et climatiques change d'année en année. Le cours dans le master énergie de PSL, maintenant ça doit faire 7 ans que je le donne, si je dis pas de bêtises, donc ça permet de voir un peu l'évolution des promos, de la sensibilité des étudiants, donc ça c'est intéressant.
Ah, t'as vraiment vu une évolution en 7 ans?
Ouais, bah, ça se voit dans la composition des promos, dans la taille des promos, dans les nationalités aussi. Les questions énergétiques avaient quand même moins le vent en poupe jusque, allez, on va dire en 2020, 2021. Là, maintenant, ça repart bien, il y a un vrai engouement, c'est de nouveau perçu comme quelque chose d'important par les étudiants. On le voit aussi dans les formations nucléaires, les masters nucléaires, génie atomique ou master énergie nucléaire de l'INSTN. Il y a eu vraiment un creux dans les recrutements pour ces filières-là, on va dire jusqu'en 2020-21, et puis là ça repart. Donc maintenant il va falloir rattraper le retard de formation.
Ok, intéressant. Ok, et donc ce soir, on avait dit qu'on parlerait un peu de stratégie industrielle, notamment de l'Union européenne. Est-ce que tu veux développer un petit peu là-dessus?
Ouais, c'est un sujet qui est en fait hyper important. Historiquement, l'Union européenne n'est pas une zone qui a eu vraiment une stratégie industrielle, contrairement aux États-Unis ou à la Chine. Elle se voyait plutôt comme un marché orienté autour des consommateurs. Et l'enjeu, c'était plutôt d'avoir accès aux biens, au meilleur marché possible. Si on écoute par exemple l'audition de Patrick Pouyanné devant la commission d'enquête sénatoriale sur Total Energy, là, il y a quelques jours, il explique à la toute fin de son audition que, bah, il y a quelques années, Total Energy produisait des panneaux solaires et qu'à un moment, en 2017, je crois, l'Union européenne a fait sauter les barrières douanières pour pouvoir avoir des panneaux solaires les moins chers possibles, pouvoir bénéficier des panneaux solaires pas chers produits en Chine, et ça a complètement laminé l'industrie du panneau solaire en Europe. Et c'est valable un peu dans toutes les industries. Et ça, en fait, ça a été permis dans les années passées parce que on va dire que la décennie 2010, c'était un peu une décennie de mondialisation heureuse. On avait accès à peu près tout bon marché, que ce soit le gaz, les équipements, etc. Il n'y avait pas de grandes tensions entre les différentes puissances. Et là, aujourd'hui, l'Union européenne a été frappée par plusieurs crises. Alors, il y a eu la crise du coronavirus en 2020 qui a frappé l'ensemble du monde. Et là, on s'est rendu compte que même des choses assez basiques comme les masques, on n'était plus capable de les faire, les vaccins, etc. Ensuite, il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie avec une instrumentalisation dès 2021 du levier gazier par la Russie pour mettre l'Ukraine sous pression, pour mettre l'Union européenne sous pression. Donc ça, c'était même avant l'invasion de l'Ukraine. La montée des tensions entre la Chine et les États-Unis qui se transforment en guerre commerciale au milieu de laquelle l'Union européenne se trouve piégée. Et donc là, l'Union européenne prend conscience d'un certain nombre de fragilités et il va être nécessaire de développer un certain nombre d'outils pour pouvoir sécuriser nos approvisionnements et regagner en autonomie stratégique sur des technologies clés, notamment pour la transition. Je pense aux panneaux solaires, aux éoliennes, aux batteries. Alors, les panneaux solaires, il y a toujours un débat, est-ce qu'il est trop tard, pas trop tard. Les éoliennes, en tout cas, il y a vraiment une industrie encore de l'éolien en Europe qu'il va pas falloir perdre. Les batteries, on a un peu de retard par rapport à la Chine, mais on peut encore se positionner dessus. Il y a des marchés sur lesquels, enfin, qui vont émerger, sur lesquels on va pouvoir se positionner, comme les électrolyseurs. Il y a des sujets sur le nucléaire aussi. Mais en tout cas, quand on parle de réindustrialisation, ça n'arrivera pas naturellement. C'est-à-dire que si on veut redévelopper une industrie, il va falloir y mettre les moyens.
Alors, ouais, là on a à peu près une soixantaine de personnes, donc voilà, ça fait une grande salle de classe en
Bonsoir tout le monde.
fait. Et Chocloclate demande à quel point la crise de l'euro a eu un impact aussi.
Ça, honnêtement, moi je suis pas économiste, je saurais pas répondre là-dessus. En fait, il y a plusieurs choses qui jouent sur l'industrie européenne. Il y a à la fois des décisions européennes qui ne sont pas forcément mauvaises. D'ailleurs, par exemple, le fait de mettre en place un prix du carbone. Donc là, je pense au système d'échange de quotas d'émission. Donc en Europe, l'aéronautique, la production d'électricité et l'industrie sont soumises à un marché des quotas. C'est-à-dire que pour émettre du CO2, il faut acheter des quotas sur un marché. Le prix de la tonne de carbone peut être plus ou moins élevé. Et donc ça fait un coût pour les industries. Par rapport aux industries non européennes qui ne sont pas soumises au marché des quotas, ça peut représenter un déficit de compétitivité. Donc ça, c'est déjà un premier élément à prendre en
Mais
compte, même s'il y a
ouais,
des...
juste là-dessus, parce que je crois que au moins ce marché ETS à la base était exclu justement les industries qui pouvaient être en compétition avec l'étranger, non?
Ouais, en fait, pour l'instant, le système qui existe, c'est que ce sont des quotas gratuits. Les entreprises qui sont soumises à une compétition peuvent recevoir des quotas gratuits, mais bon, ça sape un peu ce mécanisme-là. Donc là, l'idée, c'est de passer à ce qu'on appelle le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Et dans l'idée, c'est de, alors je vais pas dire taxer parce qu'en fait, ce ne sont pas des taxes, mais obliger les produits importés depuis des zones qui n'ont pas de marché carbone, à acheter des quotas à un prix qui serait cohérent par rapport à celui que les entreprises européennes doivent payer pour produire en Europe. Donc en fait, ça permettrait d'égaliser les coûts de production. La difficulté, c'est qu'en fait, pour que le MACF, mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, soit vraiment efficace et protège les entreprises européennes, il faut déjà qu'il soit appliqué à tous les produits qui sont soumises au système d'échange de quotas d'émission en Europe et qu'ils soient soumis en profondeur. Admettons par exemple, alors la production d'une voiture, c'est un mauvais exemple parce que quand on produit une voiture en Europe, c'est soumis au marché des quotas. Par contre, une voiture importée n'est pas soumise au MSAF. Donc déjà, là, il y a un déficit de compétitivité. Mais même admettons qu'il y soit soumis, il ne faudrait pas que ce soit juste la dernière étape d'assemblage de la voiture. Il faudrait que ce soit toutes les étapes qui ont été faites à l'étranger, y compris par exemple l'extraction minière, la sidérurgie, etc., pour avoir vraiment un niveau de compétitivité qui soit équivalent. Et ça, c'est assez difficile parce que l'Union européenne est très à cheval sur le droit international, ce qui n'est pas tout le cas de toutes les régions du monde, et notamment sur les règles de l'OMC. Et donc, on a privilégié un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui soit inattaquable vis-à-vis de l'Organisation mondiale du commerce, plutôt que quelque chose qui protégerait vraiment les industries européennes. Sachant que l'Organisation mondiale du commerce est un peu paralysée actuellement parce qu'il n'y a plus de cour d'appel pour d'autres raisons. Donc ça, c'était un premier point. Et après, il y a des politiques, on y reviendra peut-être tout à l'heure, de soutien aux industries dans les autres grandes puissances, Chine, États-Unis, qui leur donnent des avantages compétitifs.
Et ouais, il y avait Chocloclay qui demandait ce mécanisme, il sera effectif à partir de quand? Mais apparemment, Sir Conspire a répondu entièrement en 2026.
C'est ça, ouais. Alors, entièrement dans la version telle qu'elle envisagée actuellement, qui est une version préliminaire. En fait, si les industries sont pour pas mal assez réfractaires au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est justement parce que c'est quelque chose dont les limites font qu'on n'est pas sûr que ça les protège suffisamment par rapport à la compétition internationale. En fait, quand le prix de la tonne de carbone était à 10 euros ou moins dans la décennie passée, c'était pas un sujet parce que de toute façon, ça n'affectait pas du tout les industries. Maintenant, si on veut vraiment décarboner, il va falloir que le carbone coûte plus cher. Ce n'est pas le seul moyen, mais c'est l'un des moyens, il va falloir l'activer. Mais dans ce cas-là, ça veut dire aussi qu'il va falloir protéger nos industries de la compétition des industries non soumises à ce marché à l'étranger.
Ouais, et là-dessus, j'avais fait des vidéos, moi, à l'époque, là, sur la tarification du carbone en général. Et là, c'est vrai que c'est un marché de quotas, mais en même temps, il y a des mécanismes d'ajustement pour avoir un prix plancher, etc. Donc, on se rapproche quand même pas mal d'une taxe carbone dans les faits, je trouve.
Il n'y a
Et
pas de prix plancher actuellement.
ils ont quand même ils retiraient une partie des quotas pour faire monter le prix, quand même. C'est comme ça que le prix est monté.
Oui, tout à fait. En fait, il y a une réserve de stabilité qui a été mise en place en 2018-19, si je ne dis pas de bêtises, 2019, je crois. Et ça a permis de faire remonter le prix des quotas. En fait, si le nombre de quotas sur le marché dépasse une certaine valeur, 12% de ces quotas à l'année N plus 2 sont retirés et mis dans la réserve. En fait, en pratique, c'est 24%. Et là, récemment, le système a été encore revu pour ajuster plus finement le fonctionnement de cette réserve. Mais fondamentalement, il n'y a pas vraiment de prix plancher. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit ces dernières années. Le prix est monté très haut. Il a quasiment atteint 100 euros, je crois, la tonne. Et là, il est redescendu. Alors, je n'ai pas regardé très récemment, mais la dernière fois que j'ai regardé, on était aux alentours de 60 euros la tonne.
Ce qui est
Et ça, c'est.
le prix de la taxe carbone en France, hein, autour de 60 euros.
Mais ce qui est problématique, c'est que ça ne donne pas de visibilité aux industriels. En fait, quand on est un industriel, il faut être capable de faire des calculs économiques, de business plan pour choisir dans quelle technologie investir ou dans la localisation de son industrie. Est-ce que je vais mettre une industrie énergivore en Pologne ou en Suède, par exemple? Et le problème du système des quotas, c'est qu'en fait, ça ne donne pas de visibilité. Donc, c'est très difficile pour une industrie de se dire, bah oui, en 2030, je paierai tant de la tonne, donc je peux l'internaliser dans mes coûts. Et c'est susceptible de la mettre en danger via des variations brusques. C'est-à-dire que si le prix du carbone augmente très, très rapidement, l'industrie peut se retrouver non compétitive. Et d'un autre côté, si l'industrie parie sur un prix du carbone élevé et que le prix du carbone s'effondre, elle va aussi se retrouver non compétitive. Donc en fait, il y a des risques dans les deux sens.
Donc en fait, il aurait mieux valu une taxe.
Là, c'est toujours un débat compliqué, mais en tout cas, je pense qu'il faudrait trouver un moyen de donner de visibilité. Alors, pendant un temps, je ne sais pas si c'est toujours le cas, la France militait pour un prix plancher pour ça, et puis on peut dire aussi un prix plafond, ce qui permettrait d'avoir un corridor, ce serait déjà quelque chose.
Choclo-Clate dit: ce marché cible seulement le carbone ou l'équivalent carbone d'émission. Alors de mémoire, c'est que les émissions de CO2 et c'est même qu'une partie des émissions de CO2. Même si
Ouais.
avec le marché ETS2, il va y avoir un élargissement considérable qui va venir couvrir des choses qui sont aujourd'hui couvertes par la taxe carbone en France.
Tout à fait,
Et
transport
déjà,
et
juste le
logement.
CO2, c'est compliqué, hein. Juste le CO2, c'est déjà compliqué.
Ah oui.
Et le marché ETS est-il accessible aux spéculateurs?
Bonne
C'est
question.
une
Alors moi,
question que
je
je
suis
n'aurais
pas
pas
un
posée.
spécialiste des marchés. A priori, j'ai envie de dire les marchés, d'une certaine manière, tu dois pouvoir, mais là, je m'aventure en dehors de mon domaine de
On
compétences,
sait pas,
donc.
voilà. On sait pas, voilà, c'est ça la réponse. Alors désolé, mon nez a décidé de se vider en plein live Twitch, je sais pas pourquoi.
Rhume des foies.
Ouais, mais ça commence à être long là, c'est chiant. Question idiote, mais est-ce que ça va fonctionner alors que 80% de l'humanité se fiche complètement du sujet, dans le sens où il refuse de prendre en compte le sujet? Ah, la tarification du carbone, bah l'idée c'est que ça soit de plus en plus large, quoi. Et après, le marché européen, c'est déjà un gros marché quand même.
Ouais, alors déjà, c'est un gros marché. Il y a deux. En gros, si on part sur un marché du carbone, il y a deux philosophies. Soit on part du principe qu'on va réussir à internationaliser ça et à fusionner les marchés carbone, ce qui pose tout un tas de questions parce que la tonne, enfin le coût d'abattement, c'est-à-dire pour économiser une tonne, par exemple en Chine, va être plus faible qu'en Europe. Donc en fait, ça permettra de, si on avait un marché commun Europe-Chine, bah, ça favoriserait quand même l'industrie en Chine. Mais on peut imaginer étendre ce marché, ce qui semble en pratique assez compliqué à mettre en œuvre. L'autre approche, c'est celle que l'Union européenne est en train de mettre en œuvre, c'est-à-dire un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Et donc, si on veut que ça protège bien nos industries, que ce soit équitable, en fait, il faudrait à la fois un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour les importations, donc c'est-à-dire imposer un prix aux importations qui soient cohérents par rapport à ce qu'ils auraient dû payer pour leurs émissions s'ils avaient été produits en Europe, mais aussi faire des remboursements pour les entreprises européennes qui exportent vers des zones non soumises à des marchés du carbone. C'est-à-dire que si on prend un pays, je ne sais pas moi, disons l'Argentine au hasard, je ne sais même pas s'il y a un marché du carbone en Argentine, si on exporte vers ce pays-là, bah les autres exportateurs ou la production domestique de ce pays-là n'étant pas soumise à un marché du carbone, il ne faudrait pas que la production européenne y soit soumise. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire un ajustement à la fois pour les importations et pour les exportations. Mais ça, le problème, c'est que c'est compliqué à mettre en place vis-à-vis de l'OMC, donc ça nécessiterait d'admettre de prendre des libertés là-dessus, comme le font les États-Unis, la Chine.
Ouais, et je pense que ça répond à la deuxième remarque de Monsieur Cracou qui était est-ce qu'on va juste pas délocaliser la production de ce qui est carboné, etc. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de mécanismes d'ajustement. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont perdus sur les questions de tarification, vous pouvez voir la série de vidéos, ça fait 3 heures en tout, qu'on avait fait avec Philoxime et Gilles à l'époque. Je sais pas si tu les avais vues ces vidéos.
Ouais, je crois que je les avais vus. Ouais, je les avais vus et c'était effectivement vraiment intéressant. Surtout que c'est un sujet qui n'est pas évident, donc.
En fait, il n'y a pas. Donc on paye, mais on coule nos industries. Bah, tout l'idée, c'est justement de ne pas couler les industries. Et après, il y a quand même des situations où ça marche déjà assez bien. Par exemple, bah, sur la production d'électricité, vous ne pouvez pas la délocaliser en Chine. Et donc, il y a un marché qui est fonctionnel quand il n'y a pas ce risque de. Comment on appelle ça? Carbon leaks, ils disent, non? De fuite de carbone, donc d'entreprises délocalisables. Et c'est pour ça que pour l'instant, il y a eu un droit un peu différencié entre ce qui pouvait être délocalisé et pas délocalisé, quoi.
Après, maintenant, si on prend un peu de recul, bon, là, on a parlé un peu technique, on va dire. Si on prend un côté un peu plus politique, il faut voir d'où on part. La Commission et le Parlement actuel ont été élus, mis en place en 2019. Donc, 2019, il n'y avait pas encore eu le Covid, il n'y avait pas eu l'invasion de l'Ukraine. La situation entre les États-Unis et la Chine était quand même encore plus, enfin, était moins tendue que maintenant. Donc, on était encore sur une approche très libérale dans laquelle l'essentiel, c'était que le marché européen soit le plus ouvert possible pour pouvoir bénéficier des produits les moins chers, qu'ils soient produits en Europe ou ailleurs. Là, aujourd'hui, la position a changé. Alors, elle avait déjà commencé à changer sous la commission actuelle, notamment sous l'impulsion de Thierry Breton, le commissaire français, qui a quand même pas mal commencé à parler d'autonomie stratégique, de souveraineté. Avec les crises, les institutions européennes ont commencé à réagir. Il y a plusieurs textes visant à protéger des segments industriels, je pense au Net Zero Industry Act ou à la réglementation sur les matières premières qui fixe des objectifs de production de matériaux en Europe, de recyclage en Europe, de raffinage des métaux en Europe. Maintenant, si on veut aller plus loin, il va falloir un mandat politique. Et donc, c'est là que ça va jouer. Ça va être pendant les élections. Ça va être à la constitution du nouveau collège des commissaires. Et donc, c'est là qu'il pourra y avoir un vrai mandat aussi pour faire évoluer la politique européenne. Alors, dans ce domaine-là, dans celui de la défense aussi, pour s'adapter à une nouvelle donne. En fait, là, on a parlé de l'ETS et du système d'échange de quotas du système d'échange de quotas d'émissions et du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, je perds mes mots, mais il y a aussi la montée des protectionnismes en Chine et en Inde à laquelle il va falloir s'adapter.
Ouais, parce que ouais, y a des réactions sur le chat sur le fait que en mettant comment dire, ce frein sur les émissions de CO2, on désavantage nos industries, mais il faut aussi se rendre compte que de l'autre côté, il y a non seulement, enfin, il y a aussi des logiques de subventionner énormément, quoi. Tu vois, si on a perdu la production de photovoltaïque dans l'Union européenne, c'était pas à cause du prix du carbone.
Non, non, c'est parce qu'on a voulu ouvrir complètement le marché face à une production chinoise qui est lourdement aidée. En fait, si on prend le cas de la Chine, c'est même bizarre de parler de stratégie industrielle en Chine, tellement l'industrie est au centre de la politique. Donc en fait, tout l'appareil politique vise à soutenir la Chine. Par exemple, les aides du gouvernement, alors mises en œuvre par les régions, visent surtout à soutenir la production plus que la consommation, ce qui amène la Chine à avoir des grosses surcapacités de production de panneaux solaires, de batteries pour les véhicules électriques, etc. Ce qui permet aussi de capter les marchés à l'étranger. En plus, avec la montée des tensions avec les États-Unis ont en partie fermé leur marché côté consommation. Donc là, les surcapacités chinoises se retrouvent encore plus démesurées. Et donc la Chine essaie d'écouler sa production en Europe. C'est pour ça que le prix des panneaux solaires s'est effondré en Europe et qu'on a eu plusieurs fermetures là récemment avec le départ de Meyer Burger, qui était l'un des derniers fabricants de panneaux solaires en Europe récemment. Donc je sais plus. Ouais, je sais plus trop où j'en étais, mais voilà.
Ouais, deux remarques du coup là-dessus qui se rejoignent. Monsieur Cracoudi, en gros, tu dis qu'on est en Europe des gros naïfs bisounours et qu'on se fait rouler dessus en refusant de comprendre que la Chine et les autres en ont rien à carrer de l'écologie et veulent seulement détruire notre industrie. Alors, on pourrait revenir là-dessus parce que. Ouais. Et il y a une autre question de Guillaume FR qui dit: l'Europe est le dernier idiot du village global quand toutes les grandes puissances protègent Inflation Reduction Act aux États-Unis et subventionnement en Chine. Et en fait, dans les deux cas, il y a quand même. C'est pas des puissances qui n'en ont rien à faire de l'écologie, c'est des puissances
Non,
qui,
non, non.
aujourd'hui, investissent massivement dans ces technologies-là. C'est
Tout à
ça,
fait.
c'est.
Tout à fait, je dirais pas que la Chine n'en a rien à faire de l'écologie, ni même les États-Unis, même si il y a des choses qui peuvent nous paraître étonnantes vu de l'Union européenne. Et je dirais pas non plus que l'Europe est un gros naïf bisounours. En fait, il y a une question philosophique derrière l'idée derrière la stratégie très, très libérale, très ouverte de l'Union européenne, c'était de se dire aussi qu'en rapprochant nos économies, on éloigne le spectre d'une guerre. À l'origine, l'Union européenne, c'était ça, pas vis-à-vis de l'extérieur de l'Europe, mais vis-à-vis de l'intérieur de l'Europe. En mélangeant les économies françaises, allemandes, en créant des interdépendances, on éloignait le spectre d'une troisième guerre mondiale. L'idée derrière la politique allemande vis-à-vis du gaz russe, c'était aussi ça. C'est-à-dire qu'en développant des liens économiques avec la Russie, finalement, on éloignerait le spectre d'une guerre froide parce que les deux parties auraient intérêt à fonctionner ensemble. Aujourd'hui, on voit que, de fait, c'est plus compliqué que ça, que payer le moins cher possible les composants, les équipements, ce qui a permis de les développer très rapidement en Europe, hein. On a développé les énergies renouvelables notamment très rapidement en Europe, mais ce n'est pas tout. Et ça peut créer des dépendances, on peut perdre des compétences. En fait, quand on n'a pas une industrie, ça va être très difficile de la recréer. Et donc, si on décide de sacrifier notre industrie du solaire PV, par exemple, en se disant bah, c'est moins cher d'importer en Chine, et puis bah, on la recréera si jamais la Chine ferme son marché ou s'il y a des tensions qui émergent avec la Chine, etc. Le problème, c'est que si on n'a plus la recherche, si on n'a pas les industriels, en fait, ça va prendre beaucoup de temps d'être capable de remonter en puissance, sachant en plus que, en parallèle, les pays producteurs de ces technologies-là auront baissé leurs coûts, auront gagné en efficacité. Donc, c'est beaucoup plus difficile de prendre le train en marche. Donc, une grande puissance ne peut pas se permettre de n'avoir strictement rien, de mon point de vue, dans des technologies stratégiques. Qu'on échange, qu'on importe, ça, c'est pas un problème. Mais par contre, il faut avoir des capacités à faire soi-même. Et pour avoir ces capacités à faire soi-même, il faut faire un peu comme la Chine, les États-Unis, l'Inde, le Japon, avoir une politique de protection. En France, en Europe, on a donné des aides d'État, sauf que les aides d'État, ça ne fait pas tout. Alors déjà, souvent, ce sont des aides d'État pour des projets. Donc, vous avez un projet dans un pays, mais ça ne permet pas forcément de massifier la production en Europe. Et il y a moins de visibilité, par exemple, que les mécanismes aux États-Unis. Par exemple, aux États-Unis, le gouvernement Biden a adopté ce qu'on appelle l'Inflation Reduction Act, qui est une loi qui vise à soutenir la production d'équipements pour la décarbonation, donc des panneaux solaires, la prolongation des centrales nucléaires, les nouvelles centrales nucléaires, des batteries, des électrolyseurs, de l'hydrogène, etc.
Et
Et
même a rouvert pas mal la question minière, non? Parce que maintenant ils sont obligés d'avoir une partie de l'extraction métallique des batteries, par exemple, je crois, qui sont sur le territoire.
Ouais, et surtout, ces aides-là, en fait, ce sont des aides qui sont non plafonnées. Alors, il y a eu des estimations, je crois que c'était 370 milliards de dollars d'ici 2030, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est une estimation. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de postuler pour obtenir l'aide. À partir du moment où vous respectez certains critères sur les émissions, par exemple, sur le nombre de kilos de CO2 émis par kilo d'hydrogène produit, vous avez droit à cette aide-là. Pour une certaine durée. Et donc ça, en fait, ça donne une visibilité aux industriels. Ce qu'on constate, c'est que les États-Unis drainent des projets pour certains qui devaient voir le jour en Europe. En plus de ça, l'imposition de tarifs vis-à-vis des importations chinoises, etc., ça aide à développer une industrie chez eux. Alors la contrepartie, parce qu'il y a quand même une contrepartie qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les produits, quand on fait du protectionnisme, quelle que soit la façon dont on le fait, coûtent plus cher. Évidemment, si on a ouvert les marchés, c'était pour payer moins cher. Donc, si l'industrie est partie d'Europe pour se développer en Chine, c'était parce que c'était moins cher, du fait notamment des aides qu'il pouvait y avoir là-bas. Donc, si on force une partie de la production, que ce soit l'extraction minière, le raffinage des métaux, la montée en chaîne de valeur, la production d'équipements en Europe, ça coûtera aussi plus cher. Donc, il y a tout un arbitrage à faire entre le coût qu'on est prêt à payer, qui ne doit pas être démesuré, parce que sinon, si le prix des panneaux solaires, des batteries, etc., sont démesurées. Ça veut dire que ce sera beaucoup plus difficile de décarboner. Mais d'un autre côté, il va falloir quand même être prêt à payer un peu plus cher pour assurer une certaine
Sécurité.
sécurité. Et sur le protectionnisme, peut-être, on a souvent tendance à parler des aides d'État. Je pense qu'il faut avoir conscience de la diversité des moyens qui peuvent être mis en œuvre. Il peut y avoir des aides d'État qui peuvent être directes, indirectes, des aides à l'investissement. Par exemple, vous voulez ouvrir une usine, bah vous avez tant pour ouvrir l'usine. Vous pouvez avoir des aides à la production. C'est-à-dire que pour chaque panneau que vous allez produire, pour chaque kilo d'hydrogène que vous allez produire, vous allez avoir une aide. Vous pouvez avoir des aides qui sont indirectes, par exemple des aides sur l'énergie. L'énergie qui est subventionnée, ce qui va permettre d'avoir un accès à l'énergie moins chère, donc votre industrie sera plus compétitive. Vous pouvez avoir des manœuvres plus offensives aussi sur l'extraterritorialité du droit, par exemple, qui est beaucoup utilisé par les États-Unis, soit pour capter des entreprises stratégiques étrangères ou pour fermer des marchés d'entreprises stratégiques étrangères. Là-dessus, on peut penser par exemple à la réglementation américaine sur les exportations de biens à double usage, donc c'est la fameuse réglementation ITAR. Donc en gros, les États-Unis se réservent le droit de contrôler les exportations de tous les biens qui comporte une partie de production américaine. Et dans partie de production américaine, la définition est extrêmement large, c'est-à-dire que ça peut être n'importe quelle pièce d'équipement qui rentre dedans, ça peut être des logiciels qui ont servi à le faire, ça peut être des citoyens américains qui ont participé à la conception de ce truc-là. Donc vous imaginez, par exemple, vous avez un missile qui serait fabriqué purement en France, avec des composés français, etc. S'il y a des Américains qui ont travaillé là-dessus, ou s'ils ont utilisé des logiciels américains, les États-Unis se réservent le droit de décider auprès de qui ou non on peut les vendre et d'imposer des sanctions. En fait, ils vont très loin dans l'extraterritorialité de leurs droits. Aujourd'hui, la Chine utilise assez peu ces leviers-là. Par contre, elle est en train de muscler sa réglementation là-dessus. Donc, on peut s'attendre à ce qu'un jour, elle soit plus offensive là-dessus. Et l'Union européenne risque de se retrouver entre les deux. Donc là, en fait, il y a tout un paysage qui est en train de se redessiner avec différents moyens de protectionnisme. Donc j'en avais cité quelques-uns. Il y a aussi, vous pouvez mettre des taux de localisation dans les appels d'offres. Par exemple, vous dites que dans les appels d'offres publics, il doit y avoir 30%, 20 ou 30, par exemple, qui sont produits dans le pays. Vous pouvez avoir des barrières douanières. Enfin, il y a plein de moyens de faire du protectionnisme. En Chine, par exemple, aussi, si vous voulez ouvrir une usine en Chine, il faut avoir l'autorisation du gouvernement. C'est pas interdit, mais en pratique, si vous ne faites pas une joint venture avec une entreprise chinoise, avec des transferts de propriété intellectuelle, etc., vous n'allez pas avoir l'autorisation. Donc, il y a plein de choses en fait qui ne sont pas forcément toujours assumées, qui ne sont pas forcément directes et qui vont pouvoir jouer là-dessus. Et ça peut aller très très loin, sur de la recherche dans des secteurs de pointe stratégique dans lesquels vous avez très peu de labos qui vont chercher. Vous pouvez avoir aussi des manœuvres d'ingérence avec des attaques réputationnelles, par exemple, pour essayer de pénaliser cette recherche-là dans d'autres pays, dans d'autres régions du monde, pour essayer de gagner des avantages là-dessus. Donc il y a énormément de choses qui peuvent être mises en œuvre.
Ouais, alors il y a pas mal de réactions sur la question de l'extraterritorialité, pardon. Circonspect dit, c'est similaire à l'extraterritorialité du droit si tu utilises du dollar. Je connais pas ça non plus.
Bah tiens, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, une note là qui vient juste de sortir
Alors, décale un
de.
peu le livre, parce qu'on voit que le milieu.
Ah ouais, je sais pas si. Hop.
Vas-y, je mettrai le
Ouais, bon.
lien.
C'est une note de l'Institut Montaigne qui vient juste de sortir sur l'extraterritorialité angle mort de la sécurité économique européenne. Et en gros, ils expliquent un peu les différentes. Facettes que peut prendre l'extraterritorialité, les enjeux pour l'Union européenne, ce que l'Union européenne a fait avec plus ou moins de succès pour lutter contre ça jusqu'à présent, les menaces qui risquent d'émerger à partir de là, et le fait qu'il s'agit encore d'une zone d'ombre en droit international, c'est-à-dire que sur l'extraterritorialité du droit, pour l'instant, c'est un concept qui est mal défini au niveau international, ce qui permet d'avoir des approches très différentes. Par exemple, l'Union européenne a une approche assez rigoriste de l'extraterritorialité du droit. En soi, ce n'est pas forcément toujours un mal, hein, l'extraterritorialité du droit. C'est ce qui permet aussi de poursuivre des crimes contre l'humanité commis à l'étranger, de lutter contre la corruption à l'étranger, contre les atteintes aux droits humains, etc. Par contre, quand ça devient un outil qui est utilisé pour soutenir les industries d'un pays en ayant des liens extrêmement ténus, comme l'utilisation d'une monnaie, je pense au dollar, des liens aussi très ténus dans l'exportation des biens à double usage ou des manœuvres assez douteuses sur des affaires liées à la corruption. Je pense à l'affaire Alstom, par exemple. Là, on peut davantage se poser des questions.
Pedro Lito dit, mais c'est leur propre loi, en quoi une loi nationale peut jouer en mondial? C'est abusé. Bon, en fait,
Bah, en
c'est
fait,
parce qu'en face, ils mettent des. Comment dire? Des. Vas-y.
Faut pas imaginer les relations internationales comme quelque chose où le droit prévaut. C'est quelque chose où le rapport de force prévaut et le droit prévaut entre pays de puissance intermédiaire qui sont à peu près à égalité. Et donc, quand vous êtes un pays très puissant avec un marché aussi très puissant comme les États-Unis, Une entreprise, vous prenez un grand groupe comme, je ne sais pas, moi, à peu près tous les grands groupes français, les grands groupes bancaires, les grands groupes industriels, etc., ils sont tous implantés aux États-Unis, ils ont tous des activités là-bas. S'ils ne respectent pas le droit américain, c'est-à-dire qu'ils peuvent être soumis à des sanctions, des amendes qui peuvent être extrêmement élevées, sauf s'ils partent du pays, et partir du pays est inenvisageable. Donc en fait, ça les oblige à se soumettre à ce droit-là. Et d'ailleurs, c'est même du droit ou du non-droit, parce que la plupart des affaires, par exemple sur les affaires de corruption, ne vont pas jusqu'au procès. En fait, vous avez un procureur qui va attaquer une entreprise, que ce soit Alstom ou Airbus, même si Airbus, en fait, c'est un petit peu plus compliqué. Ensuite, les risques sont tels que l'entreprise, souvent, va négocier avec le procureur et va payer, va payer, va négocier, en fait, une pénalité, ce qui va lui permettre d'aller au procès. Et donc, ça peut être des pénalités qui s'élèvent à plusieurs centaines de millions, voire quelques milliards de dollars, qui peuvent être extrêmement élevés, parce que le risque d'aller au procès est très élevé. Et en fait, vu qu'aucune entreprise ne va au procès, ça donne aussi une liberté au procureur, qui, sachant que les entreprises ne vont pas aller au procès, a plus de liberté pour attaquer un peu comme il veut. En plus, vu que les procureurs là-bas sont élus, d'un point de vue politique, ils peuvent difficilement se permettre de perdre. Donc les entreprises le savent aussi. Et si elles décidaient vraiment à aller au bras de fer avec le procureur, il y a des risques que le procureur essaie de pousser sur d'autres choses jusqu'à obtenir un gain, parce qu'il ne peut pas se permettre de perdre vis-à-vis de son électorat. Donc vous voyez, en fait, le système judiciaire aux États-Unis est très très différent du système français et européen. Il fonctionne beaucoup sur la négociation. Et vu que c'est un marché dont on ne peut pas se retirer pour plein de grands groupes, en fait, bah, ils font avec. C'est pour ça que quand Donald Trump, par exemple, s'est retiré de l'accord sur le nucléaire iranien et a réimposé des sanctions sur l'Iran, toutes les entreprises européennes, alors que l'Iran respectait à cette époque-là ses engagements vis-à-vis de cet accord. Toutes les entreprises européennes qui étaient présentes en Iran se sont progressivement désengagées, parce qu'en fait, le marché iranien est beaucoup moins intéressant que le marché américain, et ne voulaient pas prendre le risque de subir des sanctions américaines.
Donc ça veut dire que l'influence qu'ils ont sur nos entreprises, par exemple, ça passe par une influence qui est sur leur sol, qui est leur marché, quoi.
C'est ça. Et c'est pour ça aussi que si on veut lutter contre ça, et je pense qu'il faudrait en fait que l'Union européenne joue davantage sur l'extraterritorialité de son droit et soit plus offensive vis-à-vis de ça, ça ne peut se faire qu'à l'échelle de l'Union européenne, parce que un pays européen en lui-même est trop petit et a moins va avoir un effet dissuasif moindre. Le problème, c'est que là, avec l'invasion de l'Ukraine, donc l'OTAN est réapparu comme quelque chose d'extrêmement important pour protéger l'Union européenne. Donc, les États qui sont les plus exposés, on va dire, vis-à-vis de la Russie, je pense à la Pologne, etc., se sont encore rapprochés des États-Unis et sont assez frileux, on va dire, vis-à-vis de tout ce qui pourrait fâcher les États-Unis dans ce cadre-là. C'est-à-dire que il y a des garanties de sécurité aussi qui vont derrière. Donc en fait, il faut vraiment peser tout ça en parallèle.
Et l'Union européenne, c'est un marché qui est à peu près de la même taille que le marché américain.
Ça, je saurais pas dire. En termes de population, oui, en termes de. On dit souvent que c'est le premier marché mondial, mais honnêtement, là, je sais pas.
Ce qui fait que dans le bras de fer entre l'Union européenne et les États-Unis, c'est quoi? C'est un bras de fer à peu près à la même puissance ou?
Le truc, c'est que les États-Unis, globalement, c'est un État. L'Union européenne, c'est plusieurs États structurés quand même essentiellement autour d'un marché. Ce n'est pas un État fédéral, l'Union européenne. Et notamment, tout ce qui est relations internationales est une compétence des États membres. Donc c'est pour ça aussi qu'il est très difficile de lutter contre l'extraterritorialité du droit. C'est que ce n'est pas vraiment une prérogative de l'Union européenne, c'est plus une prérogative des États membres, alors que les États membres sont chacun pris séparément trop faible, on peut dire, pour être vraiment crédible là-dessus.
Et du coup, au niveau de l'Union européenne, donc on pourrait jouer plus sur ce truc-là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre aussi si on veut? Parce que l'objectif, ça serait de réindustrialiser une partie de ces industries clés, je pense, pour la transition. C'est un peu ça l'idée qui est défendue.
Oui, ben voilà, en fait, ça va être de développer une stratégie industrielle qui soit ambitieuse. C'est-à-dire, quand on dit réindustrialiser, il faut être capable de mettre des moyens en face, qui peuvent être des aides d'État, des taux de localisation, des barrières tarifaires, s'assurer que la compétence soit équitable. Je pense que vis-à-vis du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières dont on parlait tout à l'heure, il faut faire quelque chose qui soit vraiment solide, quitte à ce que ça morde un peu sur les règles de l'OMC, mais de toute façon, il n'y a plus de cours d'appel à l'OMC, donc de toute façon le droit de l'OMC ne peut plus être appliqué en l'état et actuellement les États-Unis ne le respectent plus vraiment de toute façon. Donc la difficulté derrière ça, c'est que déjà il y a certains États qui n'ont pas vraiment intérêt à ça, il y a des États qui ont une économie importatrice en Europe. Quand on prend les Pays-Bas, par exemple, qui est un État portuaire, qui importe énormément, si on réduit les importations pour privilégier l'industrie, eux, a priori, ça va moins leur profiter que l'Allemagne, par exemple. Parce que eux, une bonne partie de leur activité, c'est d'importer. Donc, ils n'ont pas forcément envie qu'on importe moins. Et vous avez certains pays qui, parce qu'ils exportent dans certains pays, je pense notamment à l'Allemagne, vont aussi être assez frileux vis-à-vis d'une politique un peu plus protectionniste. Donc, c'est pas quelque chose qui va être facile, même si actuellement il y a quand même plus de bandes passantes au niveau européen pour parler de ça. Quand on regarde un peu les programmes des différents partis pour les élections européennes, on voit quand même que la position là-dessus change, notamment sur les équipements de défense. Il y a notamment dans le manifeste du PPE, je me demande s'il n'y a pas ça aussi dans le manifeste des écolos, mais donc PPE c'est la droite, les écolos sont les écolos. Sur les aspects défense, soutenir, enfin acheter davantage d'équipements de défense européens, soutenir l'industrie de défense européenne pour les achats européens.
Je sais pas si tu vois le chat.
Ouais, mais du coup, je l'ai pas trop regardé.
Non, je le lis pour toi, t'inquiète. Parce qu'il y a des questions. Ouais, Guillaume Eiffert réagissait sur organisme de règlement des différents de l'OMC est bloqué. Tu as évoqué ça plusieurs fois.
Ouais, en fait, il y a plus de cours d'appel de ce que je comprends. Alors, je n'ai pas regardé ça de très près, mais les États-Unis n'auraient pas voulu ou n'auraient pas nommé de juge alors que c'était à eux d'en nommer dans la cour d'appel. En tout cas, la cour d'appel est bloquée. Donc actuellement, l'OMC existe toujours, évidemment, les règles de l'OMC existent toujours, mais si vous avez un différend, ça va être pour l'instant, ce n'est pas possible d'aller jusqu'au bout.
Ok. Drift 565 mettait sans les États-Unis, quelle énergie en Europe, quelle défense face à la Russie? Parce que c'est vrai qu'on s'est détourné un peu de l'approvisionnement énergétique russe et qu'on a compensé en partie avec des imports américains.
Alors là, il y a deux questions. Si on commence par exemple sur la question de la
Ah
défense,
putain, j'ai pas réglé Wizbot correctement. Vas-y, vas-y, vas-y.
si on commence sur la question de la défense, il y a une grosse question qui se pose qui va être élu en novembre prochain aux États-Unis. Et s'il y a un retour de Trump qui a clairement incité Vladimir Poutine à attaquer l'Union européenne parce qu'elle n'investissait pas suffisamment dans sa défense, c'est quand même un message. Et je ne sais pas si, en admettant que Trump soit réélu, s'il continuerait à respecter ses engagements pris au titre de l'OTAN ou non, mais en tout cas, ses paroles laissent planer des doutes là-dessus. Et donc, ça décrédibilise l'OTAN et ça décrédibilise la sécurité apportée par l'OTAN. Parce que l'enjeu, en fait, de l'OTAN, c'est pas d'arriver en guerre et puis qu'on s'allie tous. En fait, c'est d'avoir une dissuasion avant pour éviter la guerre. Donc, ça pousse quand même l'Union européenne et les États européens à vouloir renforcer leur industrie de défense et leur défense pour pouvoir compléter en fait les garanties aujourd'hui apportées par l'OTAN. Sur l'énergie, oui, tout à fait. Les États-Unis ont gagné des parts. En fait, le déclin des approvisionnements énergétiques russes, notamment gaziers, ont en bonne partie été compensé par des importations de gaz naturel liquéfié, notamment depuis les États-Unis.
Du bon gaz de schiste.
Ouais. Mais aussi depuis la Russie. Alors on peut souvent on se dit bah, maintenant on n'importe plus de gaz de Russie. Si, si. Aujourd'hui on importe toujours environ un quart du gaz qu'on importait avant la crise. En fait, et ça je pense que c'est important de le dire, l'Union européenne a imposé des sanctions sur le charbon, sur le pétrole, mais il n'y a pas eu de sanctions sur le gaz. Et la réduction des livraisons de gaz est le fait de la Russie. Donc il n'y a jamais eu de sanctions européennes pour l'instant. Sur le gaz et la Russie livre encore environ un quart du gaz qu'elle livrait avant la crise. En gros, c'est à moitié sous forme liquéfiée et à moitié par gazoduc, notamment le gazoduc ukrainien d'ailleurs.
Oui, parce qu'il y en a eu, il y en a un qui a eu un petit problème quand même, le gazoduc.
Ouais, mais Nord Stream a été saboté après la cessation des livraisons. Mais
N'empêche
c'est
qu'on
pas
aurait
le
du mal à le
sabotage qui m'a
redémarrer
arrêté.
maintenant.
Ouais, bah, sur les deux gazoducs, en fait, Nord Stream 1, il y avait deux tuyaux, et Nord Stream 2, il y avait deux tuyaux, donc quatre tuyaux au total. Nord Stream 2 n'a jamais été mis en service, Nord Stream 1 était en service, même s'il était arrêté au moment où il était saboté. Il y a trois tuyaux qui ont été éventrés, et qui, a priori, on peut estimer qu'aujourd'hui sont condamnés, surtout que bah, voilà, ça n'a pas été réparé, et l'eau de mer fait son effet. Mais il y a toujours un des deux tuyaux de Nord Stream 2 qui n'a pas été saboté.
Ok, je sais pas.
Donc, en théorie, on pourrait toujours utiliser ça. Mais de toute façon, en fait, Nord Stream, ce n'était pas un gazoduc qui était nécessaire pour importer du gaz de Russie. C'était nécessaire surtout pour contourner l'Ukraine. Et là, en fait, et ça, c'est très bien expliqué dans le livre paru cette année ou l'an dernier de Marion van Rentergem, Le piège Nord Stream. En fait, ça, c'est vraiment une erreur d'appréciation stratégique de l'Allemagne. C'est-à-dire que. Nord Stream était vu par Vladimir Poutine pour contourner l'Ukraine et l'Allemagne se disait qu'à partir du moment où s'assure contractuellement que l'Union européenne continue d'importer du gaz depuis l'Ukraine, ça fera toujours des devises à l'Ukraine et donc on n'affaiblissait pas l'Ukraine. En fait, ce qui intéressait Poutine en construisant Nord Stream 1 et Nord Stream 2, c'était pas de ne plus donner d'argent à l'Ukraine, c'était de pouvoir contourner complètement l'Ukraine pour enlever ce côté stratégique qui était la garantie vitale de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il pouvait complètement contourner l'Ukraine avec d'autres gazoducs, il pouvait envahir l'Ukraine sans couper le gaz à l'Union européenne, à condition que l'Union européenne ne défende pas l'Ukraine. Et donc, Nord Stream 1 et Nord Stream 2 avaient cette fonction-là.
Et il y a Mitchip qui demande, bonjour à tous les deux, est-ce qu'il y a eu des projets de sanctions de l'Union européenne pour le gaz russe qui n'auraient pas abouti? Est-ce qu'il y a eu des sanctions nationales de pays, de l'UE contre le gaz russe?
Non, pas à ma connaissance, les sanctions non.
Est-ce que le gaz russe était vendu à l'Allemagne plus cher que via l'Ukraine, Nord Stream? On sait ça?
Alors ça pour le coup, je suis incapable de répondre.
Ouais, c'est pas.
J'aurais envie de, enfin, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de raison, mais vraiment là-dessus.
Et ils l'ont envahi, et pourtant il y a toujours du gaz qui va de la Russie à l'ouest en passant par l'Ukraine. Ouais, il y a toujours du gaz qui passe par l'Ukraine.
Oui, il y a
Ouais.
toujours du gaz qui passe par l'Ukraine et aussi par le Turk Stream, je crois. Par contre, il n'y en a plus qui passe par Yamal, donc le gazoduc qui passe par la Biélorussie, et il n'y en a plus qui passe par Nord Stream.
Eh bien, tu connais bien le gaz.
En fait, c'est intéressant de regarder ça parce que ça permet aussi de comprendre un peu comment ces leviers-là ont pu être instrumentalisés. C'est quand même un cas d'école. Même pendant l'Union soviétique, globalement, la Russie avait été un partenaire relativement fiable sur les questions énergétiques. Et donc là, en fait, si on regarde ce qui s'est passé, on va dire depuis 2020. En 2020, donc, il y a la crise Covid, l'Union européenne consomme moins de gaz, l'industrie est à l'arrêt, la Russie nous envoie moins, donc jusque-là, il n'y a pas de problème. À l'été 2021, bon, je pars, je vais essayer de trouver un graphique qui. Ah ouais, non, mais en fait, je ne suis pas connecté. Bon, tant pis. À l'été 2021, l'économie européenne repart. L'Union européenne veut acheter davantage de gaz à la Russie. Et là, la Russie botte en touche. Alors, de mémoire, il y a eu plusieurs arguments. Il fallait déjà qu'ils remplissent leur stock chez eux. Ils n'arrivaient pas à extraire davantage. En septembre 2021, pour rappel, hein, l'invasion de l'Ukraine, c'est février 2022. Donc, septembre 2021, l'Ukraine n'est pas encore envahie. Été 2020, donc septembre 2021, la Russie fait du chantage à Nord Stream 2. Elle dit à l'Union européenne, on vous vendra davantage de gaz si vous mettez en service Nord Stream 2. Un truc aussi qu'il faut savoir, c'est que le gaz, c'est une source d'énergie qui est assez pratique parce qu'on peut la stocker. On a des stocks souterrains de gaz. En France, c'est Storengy, une filiale d'Engie qui gère ça. On a 3-4 mois de stock de gaz. Il y a certains pays, notamment l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Autriche, si je ne dis pas de bêtises, qui avaient sous-traité leur stock domestique de gaz à Gazprom. C'est-à-dire que c'était Gazprom, l'opérateur national gazier russe, qui gérait leur stock domestique de gaz sur leur territoire. Été 2021, Gazprom ne remplit pas les stocks, sachant que normalement on remplit les stocks l'été pour les utiliser l'hiver, parce que l'hiver on a besoin de plus de gaz pour se chauffer. Donc déjà on voit qu'à l'été 2021, la Russie préparait quelque chose. Hiver 2021, la Russie réduit ses livraisons de gaz via Yamal, le gazoduc qui passe par la Biélorussie, et crée une première crise gazière. Et donc ça entraîne déjà une augmentation du prix du gaz. Et c'est là d'ailleurs qu'on commence à voir le discours se rationaliser autour de l'énergie en Europe. Et février 2022, quand la Russie envahit l'Ukraine, elle rouvre partiellement les robinets du gaz. Et ça, c'était un moyen de dire à l'Union européenne, bon bah, vous avez vu, c'est moi qui tiens les robinets du gaz et je suis capable de les fermer. Maintenant, j'envahis l'Ukraine et j'ai rouvert les robinets. Si vous ne vous mêlez pas de la guerre en Ukraine, vous pourrez avoir accès au gaz. Mais en fait, c'est une menace non voilée. On a aidé l'Ukraine et la réponse ne s'est pas fait attendre. Vraiment, dans les mois qui ont suivi, la Russie a coupé l'essentiel de l'approvisionnement en gaz. Puis le gazoduc Nord Stream a été saboté. Et là, je précise bien parce que souvent, il y a des malentendus là-dessus, on ne sait pas officiellement qui a saboté le gazoduc. Il y a eu pas mal d'hypothèses qui ont circulé. Moi, personnellement, je ne sais pas qui a saboté le gazoduc.
Et ouais, et là-dessus, il y a une question de Guillaume Effert qui est intéressante, qui est ça a alerté personne à l'été 2021, les trucs dont tu parlais, que Gazprom ne remplisse pas, etc.
Bah, il y a. Ça aurait pu alerter davantage. Alors, si on se replace dans le contexte de l'époque, il y avait effectivement des tensions autour de Nord Stream aussi. Donc, on pouvait aussi, j'imagine, penser que c'était un moyen pour la Russie de faire pression sur l'Europe, pour mettre en service Nord Stream, parce qu'il y avait des débats là-dessus au sein de l'Union européenne, avec les États-Unis aussi, sur le fait est-ce qu'on finit ou non Nord Stream, est-ce qu'on met ou non en service Nord Stream. Donc, je ne sais pas en fait jusqu'à quel point ça a été compris comme ça. Et puis ensuite, tant que la Russie n'avait pas envahi l'Ukraine, en fait, c'est toujours facile d'interpréter les choses comme elles se sont passées après coup. Quand on est dans le toboggan, connaître le prochain virage, c'est toujours un peu difficile. Mais effectivement, le fait que la Russie ne remplisse pas les stocks de gaz dans les pays où elle les avait en gestion, déjà, aurait dû allume un signal d'alarme à l'été 2021.
Et Guillaume Effert dit les Britanniques et Américains étaient et croyaient à l'offensive russe en Ukraine dès fin 2021. Il y a une question de Loïc qui dit est-ce qu'on a déjà parlé du ban des US de Biden sur le GNL? Curieux de l'avis de Maxence là-dessus. Je sais pas à quoi il fait référence.
Non. Du ban des US sur le GNL?
Ouais.
Non, parce que là, pour le coup, il y a, enfin, à ma connaissance, il y a personne qui parle de sanctions sur le gaz.
Ok, bah Loïc, si t'es encore là, tu peux préciser. Et Guillaume Effert disait
Même si
pourquoi
je
le.
pense que ça devrait être un sujet, parce qu'en fait, juste pour donner un élément sur les sanctions, en fait, quand on prend des sanctions, l'enjeu, c'est d'affecter le plus possible la partie qu'on sanctionne et de s'affecter le moins possible. Pourquoi est-ce qu'on a pris des sanctions sur le charbon et sur le pétrole? C'est parce que ça nous affectait peu. Le charbon, parce que déjà, finalement, on en importe pas tant que ça, et surtout, on peut remplacer les importations. Enfin, il y a d'autres fournisseurs de charbon. Et le pétrole, c'est un marché qui est bien mondialisé. Donc, on peut l'importer d'ailleurs. Et il y a notamment des systèmes de chaises musicales, c'est-à-dire que l'Union européenne, n'achetant plus le pétrole russe, va l'acheter depuis d'autres pays qui eux-mêmes en vendront moins à d'autres pays qui se fourniront davantage depuis la Russie. Donc, par exemple, l'Inde a acheté davantage de pétrole russe, meilleur marché d'ailleurs. Et il y a des pays qui ont un peu joué sur la. Sur la. On va le dire de façon un peu crue, mais le blanchiment de sanctions. Alors, même si eux, ils ne les respectaient pas forcément, mais par exemple, l'Arabie Saoudite importait du pétrole russe pour consommer chez elle, ce qui lui permettait d'exporter davantage de pétrole saoudien. Donc, le pétrole, en fait, ça nous affectait peu de mettre des sanctions, et ça affectait peu aussi la Russie, parce que même s'il y a eu une décote sur le prix du pétrole russe, elle pouvait globalement le vendre ailleurs. Sur le gaz, c'est plus compliqué. En fait, si on met des sanctions sur le gaz, ça va affecter la Russie, parce que tous les champs gaziers de l'Ouest, en fait, la Russie n'a pas les infrastructures pour pouvoir vendre ce gaz à d'autres régions du monde. En fait, ils n'ont pas les infrastructures GNL pour le vendre ailleurs. Il n'y a pas de gazoduc actuellement entre les champs de l'Ouest et la Chine. Mais ça affecterait aussi l'Union européenne parce que ça voudrait dire qu'il faudrait importer beaucoup plus de GNL sur un marché qui est tendu. Donc ça voudrait dire payer notre gaz plus cher. Et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas mis de sanctions là-dessus et qu'on n'en met pas encore aujourd'hui.
Alors, ouais, pour Loïc a précisé, et en fait, c'est Biden a annoncé une pause sur l'expansion des terminaux de liquéfaction. Et Circonspect disait ça aussi, a signé un décret pour ne pas développer plus de capacités de liquéfaction au-delà de celles déjà autorisées. Et voilà, ce que tu penses de ça, je sais pas si.
Bah, alors, bon, j'ai pas regardé de près ça. Je sais par contre avec la crise du gaz, en fait, il y a plein de projets d'extraction gazière et de terminaux de liquéfaction et de regazéification. Donc, liquéfaction côté vendeur, regazéification côté acheteur, qui se sont mis en œuvre parce que, en fait, ça crée une sorte de boom de la demande de transport de gaz sous forme GNL pour remplacer notamment le gaz qui était plus livré par gazoduc entre la Russie et l'Europe. Donc y a tous ces projets-là. Après, si on imagine par exemple que la croissance repart fortement en Chine, il peut y avoir de nouveau des tensions sur le GNL parce que il y a enfin, le nombre de navires est limité, le nombre de terminaux de liquéfaction est limité. Donc, tant qu'il n'y a pas de nouveaux terminaux de liquéfaction qui sont construits, de nouveaux navires, on peut toujours voir des tensions. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, aujourd'hui, qu'on ne met toujours pas de sanctions sur le gaz, même si le prix du gaz est largement retombé depuis la crise. Toujours dans l'audition de Patrick Pouyanné, dans la commission d'enquête sénatoriale. Sur Total Energy, il expliquait que si on mettait des sanctions sur le GNL maintenant, vu que les nouveaux projets de terminaux de liquéfaction n'ont pour l'essentiel pas encore vu le jour, on risquerait en fait de tendre le marché, de faire remonter le prix du gaz. Donc, de son point de vue, en tout cas, il faudrait mieux attendre que ces terminaux-là voient le jour.
Cette vidéo.
Mais ça fait une rentrée d'argent pour la Russie.
Ouais. Cette audition de la Total que tu as mentionnée plusieurs fois, tu conseilles de la regarder? C'est
Très
intéressant.
vivement, oui. C'est passionnant. Alors, on peut penser ce qu'on veut de Patrick Pouyanné, de la stratégie de Total, mais c'est un dirigeant d'entreprise énergétique qui connaît extrêmement bien le secteur de l'énergie et son secteur. Et c'est quelqu'un qu'il est toujours intéressant d'écouter, en fait. On apprend toujours des choses. Et notamment là-dedans, en fait, il y a plein d'éléments qui sont très intéressants. Alors, notamment sur le solaire photovoltaïque en toute fin d'émission, ce que je disais tout à l'heure, en fait, pourquoi est-ce qu'ils se sont lancés dans la production de panneaux solaires photovoltaïques et pourquoi est-ce qu'ils ont dû fermer leurs usines et comment est-ce que ça s'est passé. Donc, ça, c'est assez intéressant. Aussi sur les questions de Scope 3. Là, on voit un déferlement d'attaques depuis 2-3 ans vis-à-vis de Total Energy. Pour ma part, je suis assez mal à l'aise vis-à-vis de ça. Évidemment, il y a des choses à reprocher à Total Energy comme à la plupart des entreprises. Mais Je suis assez d'accord avec lui dans ce qu'il dit dans cette vidéo-là. Si personnellement j'achète un SUV et que je l'utilise pour aller acheter ma baguette, ou si je pars en week-end à l'autre bout du monde, c'est pas TotalEnergies qui est responsable de ça. En fait, ils n'ont pas de levier sur la consommation et ils peuvent pas savoir si le litre de pétrole qu'ils vont vendre, il va aller dans une ambulance ou dans un SUV. Donc, le scope 3, c'est intéressant pour connaître l'empreinte carbone d'une chaîne de valeur et pour voir aussi quelles chaînes de valeur sont ou non compatibles avec les engagements de neutralité carbone. Par contre, ça ne suffit pas pour affecter toute la responsabilité à un acteur. Si on prend la mobilité, par exemple, il y a une partie de la responsabilité qui est sur le fournisseur de carburant, donc par exemple les pétroliers, sur les équipementiers et sur le consommateur final. Et ça, je pense qu'il faut pas l'oublier. Et en fait, si on l'oublie, le problème, c'est qu'il y a en fait tout un enjeu à ne pas perdre de vue sur la réduction de la demande. En fait, si on veut réduire notre demande de pétrole, il va falloir, enfin, si on veut réduire la consommation de pétrole, il va falloir aussi réduire la demande. Et ça va passer par des politiques. Typiquement, moi, je suis très favorable à la politique européenne de fin de vente des véhicules thermiques en 2035, parce que c'est que, alors. Ce n'est pas suffisant, mais c'est quelque chose qui va permettre de réduire la demande de pétrole. Et si on ne veut pas que la demande de pétrole se fasse par la réduction de la consommation de pétrole se fasse par de la pénurie, c'est-à-dire on coupe l'offre et puis après on voit ce que ça fait sur la demande, bah il va falloir avoir des politiques proactives de réduction de la demande. Développer les transports en commun, l'interdiction de la vente des véhicules thermiques, l'interdiction de l'installation de nouvelles chaudières à fioul, etc., etc.
Ouais. Alors, dans le chat, on a. Attends, je peux montrer ça vite fait, peut-être. On
J'imagine
a.
que ça a dû faire réagir à ce genre de choses.
Non, on a surtout énergiquement curieux, pardon, qui avait fait une vidéo sur la crise énergétique de 2022 où il parlait un peu de la question du gaz que tu as évoqué. C'est un tout petit vidéaste, donc n'hésitez pas à aller voir et faire monter un peu les vues. Parce que c'est un beau boulot par rapport à son exposition. Donc voilà, attendez, je peux vous le remettre peut-être. Il l'a mis dans le chat, mais je peux le remettre.
Ah tiens, il y a une question qui est intéressante sur les matériaux là pour la Chine. Je peux réagir là-dessus?
Ouais, vas-y, vas-y.
Non, donc là je réagis au message d'Audvi.
Alors, Audvi, tu réagis à énorme erreur à la fin des véhicules thermiques en Europe. Tous les minerais des batteries sont détenus par la Chine.
Ouais, alors il y a plusieurs enjeux. Il y a les enjeux sur les technologies. Actuellement, les technologies de batterie sont surtout chinoises, et les enjeux sur les matériaux. Sur la question des technologies, on a un peu de retard, mais il peut encore être rattrapé. Le problème, si alors l'Union européenne est très bien positionnée sur les véhicules thermiques. Aujourd'hui, la Chine est mieux positionnée sur les véhicules électriques. Si on reste sur les véhicules thermiques, le problème, c'est qu'on ça veut dire qu'on s'accroche au crépuscule d'un marché qui va être en déclin. Il faut le plus vite possible se mettre le plus fort possible sur la technologie de batterie, parce que si on prend beaucoup de retard, il va se passer ce qui se passe avec le PV, c'est-à-dire que la Chine va monter en compétence, va massifier ses capacités de production, on ne pourra jamais rattraper le retard. Donc c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Et notamment Carlos Tavares, le PDG de Stellantis, qui était très critique vis-à-vis de la fin des véhicules thermiques en 2035, a dit récemment que maintenant que c'était acté, il fallait pas revenir dessus parce que lui, il a mis son entreprise en ordre de marche pour ça. Ils ont besoin de visibilité et si maintenant on revient là-dessus, ça va fragiliser l'industrie européenne. Sur la question des matières, il y a une vraie question. Effectivement, la Chine s'est positionnée sur l'extraction et le raffinage. Alors, l'extraction en Chine et aussi ailleurs via les investissements dans des mines un peu partout dans le monde. Ils rapatrient en bonne partie les métaux et ils raffinent en Chine. Si on prend l'aluminium, par exemple, la Chine, de mémoire, ça doit être le quatrième ou cinquième producteur mondial. Alors, c'est pas rien, mais ça doit être entre 10 et 20%, si je dis pas de bêtises, de l'extraction. Par contre, en raffinage, ils doivent être entre 50 et 80%. Il y a une note sur le site de l'IFPEN là-dessus. Et en fait, ça, c'est vraiment une stratégie sur tous les métaux. Et donc là, l'Union européenne doit réagir là-dessus pour gagner en souveraineté sur nos approvisionnements métalliques. Il y a plusieurs leviers sur lesquels on va pouvoir jouer. Sur l'extraction, le premier levier, alors, c'est pas en ordre d'importance, hein, c'est juste une liste. Le premier levier, ça va être l'extraction de matériaux en Europe. Et ça, on a On a des ressources. Par exemple, il y a un projet par Imerys d'extraction de lithium dans l'Allier. À un endroit, ils ont déjà une carrière. Donc, il y a une carrière aujourd'hui à ciel ouvert de kaolin. Donc, ce sont des silicates d'aluminium qui servent dans la céramique. Et en dessous de cette carrière, il y a un gisement de lithium qui est assez intéressant. Et ça permettrait de répondre à peu près à la moitié de la. Du besoin français en termes de quantité pour faire des véhicules.
En une
Avec en
mine.
plus en une mine. Donc ça permettrait de faire à peu près 700 000 véhicules
Mais juste
par
pour le lithium, il nous manque tous les autres métaux.
an. Ouais. Et en plus avec un meilleur contrôle des normes sociales et environnementales d'extraction que quand c'est fait dans d'autres pays. On pourrait faire la même chose pour d'autres métaux. Et là, il y a tout un enjeu aussi pour refaire un inventaire minier en France, parce que le dernier inventaire, si je dis pas de bêtises, date des années 80-90, 80 je crois. Donc en fait, on connaît très mal le sous-sol français. Je sais pas comment c'est dans les autres pays européens. Donc il y a cet enjeu-là avec derrière une grosse difficulté d'acceptation. Donc il va falloir aussi aller voir la population, discuter, expliquer aussi qu'une mine aujourd'hui, c'est pas comme une mine au 19e siècle, qu'extraire en Europe alors qu'on consomme davantage de métaux, c'est aussi un moyen d'avoir un meilleur contrôle des normes sociales et environnementales. En France, on ne peut pas faire travailler les enfants. Il y a des normes à l'extraction, il y a des normes après pour l'après-mine, sur la réhabilitation des sols, etc., qu'il n'y a pas forcément dans les autres pays. Et si la Chine s'est positionnée sur l'extraction des minerais, notamment des terres rares, c'est aussi parce qu'elle a fait des concessions sur les aspects environnementaux qui lui ont permis d'être compétitive. Donc, au-delà des aspects extraction, les approches d'économie circulaire, c'est-à-dire collecter et recycler en Europe au maximum les matières et être capable de remonter la chaîne de valeur, c'est-à-dire que quand on recycle une batterie, par exemple, être capable de remonter la chaîne de valeur pour refaire des batteries en Europe. Donc ça suppose de s'assurer que les matières ne sortent pas d'Europe, parce que sinon, bah, voilà, on gagne pas en autonomie stratégique là-dessus. Donc, qu'elles restent en Europe et qu'on soit capable de les réutiliser en Europe, donc d'avoir des industries de batteries, etc., en Europe. Troisième phase, aussi diversifier nos approvisionnements externes. C'est-à-dire, même si ça coûte un peu plus cher, ne pas acheter que chez le moins-disant. Donc, s'assurer qu'on achète des métaux qui sont extraits dans différents pays, par différentes entreprises, raffinés dans différents pays, etc. Travailler sur la recherche pour diversifier les dépendances technologiques. C'est-à-dire que si on a des batteries lithium, nickel, lithium sans nickel, sodium, etc. Et quand je dis on a des batteries, en fait, c'est avoir la propriété intellectuelle, donc les brevets et toute l'industrie de production de ces batteries. Si on commence à avoir des tensions sur tel ou tel métal, bah, on va pouvoir se reporter plus ou moins sur tel ou tel métal. Et en plus, avoir plusieurs technologies, ça va permettre de soulager la demande sur les différents métaux. C'est-à-dire que si on n'a que des batteries lithium, par exemple, on va avoir une demande de lithium qui sera plus importante que si on a à la fois des batteries lithium et des batteries sodium. Donc, il est important d'avoir tout ça. Et enfin, dernier levier, et non des moindres, c'est la sobriété. C'est-à-dire que même si il y a des choses qui sont entre guillemets bas carbone parce que électrique, ou par exemple une voiture électrique en France, c'est effectivement bien moins émetteur de gaz à effet de serre sur le cycle de vie qu'un véhicule thermique, ça ne veut pas dire que c'est open bar et qu'on peut avoir un Hummer. Non. Si on a un petit véhicule électrique avec une même quantité de matière, on pourra faire davantage de véhicules électriques. Et en plus, on en réduira l'empreinte carbone. Donc il y a vraiment un enjeu d'économie des ressources, de sobriété, même pour ce qui est bas carbone. Donc quand on parle de limiter le poids des véhicules, par exemple, c'est valable pour les véhicules thermiques, évidemment, mais c'est aussi valable pour les véhicules électriques.
Moi, j'ai toujours un peu de mal avec l'argument du poids. Je pense que c'est pas le meilleur proxy. Je pense qu'il faudrait avoir des proxys en impact à la production et en impact à l'utilisation. Et le problème, c'est, tu vois, les problèmes des SUV, par exemple, il y a un vrai problème de facteur de forme. C'est pas qu'une question de poids. C'est des trucs qui sont pas
Tout à fait,
aérodynamiques.
ouais.
C'est vraiment nul, quoi. Et
Mais
je sais
là-dessus, on
pas si
pourrait
le
jouer
meilleur
avec des
proxy.
normes. On pourrait
Ouais, c'est
jouer aussi avec
possible.
des normes.
Mais
Par exemple,
moi, j'espérais
les.
que ça se ferait naturellement, tu vois, parce que ce que recherchent les gens, c'est l'autonomie. Donc, en fait, pour avoir plus d'autonomie sans augmenter le coût, il faut des véhicules plus aérodynamiques, quoi, tu vois. J'espérais que ça percerait un peu comme ça. Et sur la sobriété, il y avait de la remarque, ouais, de Amiel Noix, qui est la même que la tienne, qui est quant à quantifier le nombre de véhicules là, pour la mine de l'Allier. Elle disait, mais de quel type? Parce qu'en réduisant
Oui.
sur les types de véhicules intermédiaires, on ferait déjà beaucoup plus de véhicules, quoi. Donc, c'est cette remarque sur
Évidemment,
la
oui.
sobriété, ouais.
Tout à fait. Mais en fait, tout ça pour dire que oui, aujourd'hui, il y a une dépendance aux métaux, mais de toute façon à la Chine, mais de toute façon, on va avoir besoin de plus de métaux. Il n'y a pas le choix, en fait, pour se passer des combustibles fossiles, il va falloir électrifier. Et même si l'électrification n'est pas le seul levier, hein, évidemment, il y a d'autres sources d'énergie bas carbone, non électriques, de la chaleur bas carbone, des carburants liquides, des gaz de bas carbone et des économies d'énergie à faire. Donc, il n'y a pas que l'électrification, mais il y aura quand même beaucoup d'électrification. Donc, on aura besoin de ces métaux. Et il va falloir avoir une stratégie vraiment de récupération, entre guillemets, de souveraineté, enfin j'aime pas trop ce terme-là, mais une stratégie pour assurer nos approvisionnements, on va dire, dans les matières en général. Et ça commence avec en fait la réglementation que l'Union européenne a adoptée là récemment, le CRM Act, donc la réglementation sur les matières critiques. Mais il va falloir aller plus loin.
Et ouais, je sais pas si tu as eu le temps de voir la vidéo que Monsieur Bidouille a sortie hier.
Alors j'ai
Peut-être.
vu l'annonce de sa vidéo, parce que tu l'avais repartagée justement,
Ouais.
mais j'ai pas vu sa vidéo. Après par contre, je suis allé visiter récemment ce site-là, donc le site d'Imerys justement, là où il prévoit d'ouvrir
Ouais.
une mine de lithium.
Et tu l'as visité en tant que quoi déjà quand tu visites ça? En tant que vulgarisateur, en tant que CEA, en tant que...
Non, là c'était plus sous l'étiquette think tanker. En fait, on était parti avec différentes personnes travaillant sur des sujets énergie pour des think tanks. Donc, il y avait des gens de l'Institut Jacques Delors, de l'Institut Montaigne. Enfin bon, bref, on était quelques-uns. Et en fait, j'avais monté cette visite parce que bah, je, enfin, c'est un projet qui me semble vraiment intéressant. En fait, si ce projet-là ne voit pas le jour, ce sera un très mauvais signal sur les questions de matière de mon point de vue, parce qu'en fait, il coche quand même énormément de cases pour que ce projet soit entre guillemets simple. Il y a déjà une carrière à cet endroit-là, donc il ne s'agit pas d'ouvrir un site. En fait, il y a déjà une carrière, ce sera en dessous de la carrière. L'approche environnementale du projet a été très travaillée. Déjà, le raffinage sera fait en France, juste à côté, à Montluçon, enfin, à côté de Montluçon, sur une ancienne zone industrielle désaffectée. Donc, il n'y a même pas d'artificialisation des sols à cet endroit-là, ce sera sur des anciennes friches industrielles à côté. Et sachant que le raffinage est encore plus critique que l'extraction, c'est hyper intéressant que le raffinage se fasse en France. Le raffinage, pour les étapes de raffinage, l'eau sera issue des eaux usées de la ville de Montluçon. Le transport des matières entre la mine et la ville de Montluçon se fera par canalisation et par train pour éviter la route, pour réduire l'empreinte carbone, ce qui permet en fait d'avoir un bilan carbone sur extraction raffinage qui est bien meilleur que ce qu'on peut faire en moyenne mondiale sur du lithium de roche dure. Donc en fait, il coche quand même beaucoup de cases favorables en termes environnementaux, en termes d'acceptabilité. Donc et en termes économiques aussi ce projet, parce que le gisement est quand même relativement concentré. Donc si ce gisement ce projet ne devait pas voir le jour, ça veut dire globalement qu'on peut rien faire en termes d'extraction en Europe, et ce serait un très mauvais signal parce que ça voudrait dire garder une dépendance très forte aux importations qui peut poser problème en cas de bouleversement géopolitique.
Et même écologiquement, ça serait dur à défendre parce que ça veut dire qu'on veut plus d'impact ailleurs, quoi. Ça serait une position écologique un peu hypocrite, je pense.
Bah en fait, il y a une grosse hypocrisie de la part de certains acteurs s'opposant au projet qui consiste à dire ouais, mais en fait, il faut de la sobriété, il faut réduire la place de la voiture. Alors, ça, je suis entièrement d'accord avec ça. De toute façon, on ne va pas décarboner la mobilité juste en l'électrifiant. Il va falloir moins de voitures, plus de transports en commun, moins de mobilité, etc. Ça, on est d'accord. Mais de toute façon, il y aura de la voiture électrique. Il y aura de la voiture et elle devrait être électrique pour réduire les impacts. Donc, ces matières-là doivent bien venir de quelque part et extraire en France ou en Europe, c'est aussi un moyen de gagner en contrôle sur les impacts environnementaux et sociaux. Et à ce titre, je me réjouis globalement. J'ai pas vu les grosses ONG environnementales s'opposer à ce projet-là. Et je pense que c'est pour le moment, en tout cas. Et je pense que c'est vraiment important. Là, il y a quelque chose à ne pas manquer là-dessus parce que si on continue à délocaliser nos impacts. Un, c'est une fragilité, et deux, sur le plan environnemental, enfin, c'est absolument pas pertinent.
Et ouais, Francis Poulton nous dit on ne pourrait pas flécher ce lithium vers les petites voitures, mais enfin, c'est pas au niveau de la mine qu'il faut décider ça, c'est collectivement. Si on impose des petites voitures à tout le monde, enfin, c'est dur à imaginer, mais c'est à cette étape-là qu'il faudrait le faire, quoi.
Ben en fait, c'est le même problème qu'avec Total. Alors, celui qui produit une matière ne décide pas ce qui va en être fait. En fait, il va le vendre à une industrie de batterie. En fait, il va même pas le vendre à une industrie automobile. Il va le vendre à une industrie de batterie. Et après, c'est le marché qui va faire le reste. Donc, en fait, si on veut avoir des petits véhicules, c'est pas à la compagnie minière qu'il faut le demander. À l'échelle du consommateur, on peut le demander aux fabricants automobiles via nos choix d'achat. C'est-à-dire que si vous achetez une petite voiture, bah, statistiquement, vous allez orienter l'offre vers des petites voitures plus que vers des grosses. Mais c'est aussi aux politiques qu'il faut le demander parce que c'est lui qui va pouvoir mettre des règles qui vont jouer sur tous les constructeurs. Admettons que vous soyez un constructeur qui soit particulièrement conscient des enjeux climatiques, environnementaux et qui se dise, ouais, non, effectivement, le gros SUV thermique, c'est pas bien, je vais faire des petits véhicules électriques. Si les gens veulent acheter des gros SUV thermiques, bah en fait vous allez juste perdre des parts de marché et ce sont les autres constructeurs qui vont vous les piquer. Donc si on veut orienter la demande vers autre chose, il faut qu'il y ait des règles qui soient imposées pour tous les constructeurs. Alors ça peut être des incitations économiques, alors soit via des taxes, des aides, etc., ou de la réglementation. Qui peut être sur la masse, la puissance, enfin, ce que vous voulez, mais en tout cas, ça doit passer par de la réglementation pour que tous les constructeurs jouent avec les mêmes règles. C'est-à-dire que, je dis une bêtise, hein, mais si demain vous dites en Europe, on n'a plus le droit de vendre de véhicules qui consomment plus de 3 litres au 100, et là pour le coup, c'est un vrai exemple, à partir de 2035, on n'a plus le droit de vendre de véhicules thermiques en Europe, bah là vous mettez une règle qui s'applique à tous. Et c'est comme ça en fait qu'on peut faire évoluer le système.
Pour imaginer direct sur la taille, sur le poids, sur la capacité de la batterie. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus trop s'illusionner sur ce à quoi est prêt la majorité de nos concitoyens. Et je pense que des batteries de moins de 60 kWh, par exemple, tout le monde n'est pas prêt pour ça. C'est quand vous commencez à parler avec des gens qui ne sont pas entièrement convaincus, s'il faut s'arrêter plus que toutes les 2 heures, ça devient un peu la limite dure, je trouve. Mais bon, quand tu sors des bulles de filtre, c'est pas toujours évident. Ouais.
Mais c'est aussi pour ça que la fin du véhicule thermique en 2035, bon, on aurait pu dire 2030, 2040, bah, à un moment, et voilà, il y a une date, pour citer dans un contexte qui n'a rien à voir, Jean-François Carenco, pourquoi 42? Bah, parce que pas 43.
Ah, ça restera ça. Maintenant, la référence de 42, c'est plus le guide du voyageur intergalactique, c'est 40 quoi. C'est un peu fou.
Les vrais comprendront. Non, trêve de private joke. Voilà, on a mis une date. Maintenant, c'est pas suffisant. Effectivement, si on fait rien d'autre, ça va pas suffire et il peut y avoir des difficultés. Il va falloir aussi adapter la réglementation, les transports en commun aussi, parce que toutes les voitures, en fait. Quand on dit fin du véhicule thermique neuf en 2035, alors déjà, ça veut dire que les véhicules thermiques qui ont été achetés avant pourront continuer à être utilisés et revendus sur le marché secondaire. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Il restera des véhicules thermiques après
Ouais, en
2035.
2035, on sera à quoi? 40% électrique, si je regarde certaines projections. 40%, 50%, mais il y aura encore une
Ouais,
grosse partie du parc qui sera thermique, hein.
ouais, et puis bon, ça va s'éteindre progressivement. Mais ça veut dire aussi que il faut pas s'attendre à ce que tout véhicule thermique doive être remplacé par son exact équivalent électrique en 1 pour 1. Ça veut dire qu'il va falloir faire peut-être des véhicules plus petits et il va falloir aussi développer des modes de transport alternatifs, notamment des transports en commun. Il y a des villes où il y a déjà beaucoup de transports en commun. Je vis une partie du temps en Île-de-France. Bon, là, il y a pas mal de transports en commun. Par contre, si vous allez à Marseille, c'est plus compliqué. Donc, il y a quand même des choses qui peuvent être faites, notamment dans les villes grandes ou de taille intermédiaire.
T'as une voiture, toi?
Ouais.
C'est quoi ta voiture?
Et ben justement, c'est une voiture électrique, c'est une i208. J'ai acheté ça l'an dernier. En fait, avant, j'avais une vieille Micra qui non, thermique qui n'en pouvait plus. Au moment de la remplacer, je me posais un peu la question, j'hésitais à en prendre une d'occasion. Bon, il n'y a pas grand-chose sur le marché de l'occasion à ce moment-là. Puis quand je suis allé voir un peu le neuf avec les aides, etc., l'électrique était à peu près au même prix. Et en fait, j'en suis super content. Alors, tu parlais de batterie de 60 kWh, la mienne fait 40, 45, je crois, un truc comme ça. Bah, globalement, j'arrive à faire à peu près tout ce que je veux avec. Maintenant, il y a des bornes de recharge un peu partout, notamment des bornes de recharge rapide, et ça fonctionne plutôt bien. Alors, pour
Ouais.
l'autoroute, c'est un peu compliqué parce que si on roule vraiment à 130 km/h, et puis bon, ce qui n'est pas mon cas, là, la batterie se vide plus vite, et l'hiver, ça se vide plus vite aussi. Par contre, sur route de campagne, ça marche bien.
Ouais. Mais moi, je suis convaincu aussi. Moi, j'ai une batterie plus petite que toi. J'ai la Hyundai Ioniq, mais la 28. J'ai une 28 kWh.
Ah oui,
Mais
c'est
dans une
effectivement.
berline. Et
Ok.
qui a la réputation d'être la voiture la plus performante en kilowattheure consommée au 100. C'est celle qui s'en sort toujours le mieux. Donc moi j'ai vraiment une petite batterie. Mais moi ça veut
Et
dire
tu as
que quand je
quelle
fais de l'autoroute,
autonomie l'été?
je sais plus exactement. Mais si je fais de l'autoroute, même quand la température est OK, ça veut dire que bah, tu t'arrêtes toutes les heures, quoi. Et ça
Ouais,
devient
bah.
un limite. Enfin je sais qu'il y a des gens, ça serait un no-go absolu, quoi.
Après, ça dépend des usages, mais le rapport à la voiture va aussi probablement devoir changer. Une petite batterie, enfin la mienne par exemple, bon, que j'utilise surtout en province, parce qu'en Île-de-France, j'en aurais clairement pas besoin, est surdimensionnée pour des trajets du quotidien. Donc après, peut-être qu'on peut avoir un véhicule pour les trajets du quotidien et pour ceux qui n'ont pas besoin de faire régulièrement des longs trajets et qui en font une ou deux fois dans l'année, simplifier l'accès à la location,
Ouais.
améliorer les offres d'intermodalité, c'est-à-dire être sûr de pouvoir louer à un prix raisonnable des véhicules dans toutes les gares pour aller ramener à n'importe quelle heure. En fait, ce sont aussi des choses sur lesquelles il va falloir travailler. Alors je ne dis pas que c'est simple, hein, évidemment, mais...
Ouais. Non, mais c'est vrai que là, en plus, la logique de décaler la majorité de l'impact à la production, ça devrait pousser vers une logique de mutualisation plus forte de ces objets-là. Après, c'est des questions d'acceptation et même de modèle économique, quoi.
Après, pour des trajets même de quelques centaines de kilomètres, avec la recharge rapide, finalement, l'électrique, ça se fait plutôt bien. Pour remonter à 80%, globalement, 20 minutes, ça se fait. Ça permet de se dégourdir les jambes, d'aller boire un café.
Ouais, et puis sur du plus long. Moi, je suis parti en vacances là un peu. Je suis parti en train et j'ai loué sur place une thermique. Mon gars, j'ai calé, putain, j'ai plus l'habitude. Bah forcément. En plus, c'était une toute petite essence qui avait pas beaucoup de puissance et quand fallait démarrer en côte, je faisais du bruit, hein. La douleur de revenir sur une thermique, hein. Sur une thermique, évidemment, pas boîte automatique, hein.
Ouais,
Ça fait mal, hein. Alors passer les vitesses ça va, mais le débarrage, et en particulier en côte, alors je sais pas si elle était particulièrement pas pêchue, mais c'était un peu vénère, ouais. Il y en a
ouais, c'est
quelques-uns qui
vrai
ont
que...
dû se marrer. Bon, je suis pas un gros rouleur non plus, hein. J'ai remis mon... Ah, mais arrêtez! Ils sont méchants, les chats. Flopodu, c'est un concours de celui qui a la plus petite. Et Florent disait, ouais, 280 WLTP, je pense. Ça doit être la Ioniq 28. Et voilà. Attends, est-ce qu'on a raté? On a raté plein de questions, évidemment, mais il y en avait quelques-unes. Ah oui, il y a le bétonnier qui disait, je viens de regarder rapidement, pour la mine de lithium dans l'Allier, FNE est contre. Je suis pas sûr.
Alors, je ne parlerai pas à leur place, il me semble, donc vraiment avec la prudence qu'il faut, qu'au niveau local, ils sont contre. Je ne suis pas sûr qu'au niveau national, ils aient pris une position.
Ok.
Parce que FNE, je crois que c'est une association d'associations, donc...
En tout cas, localement, il serait contre. Ok. Ouais.
Mais ça, faudrait vérifier.
Et reporter est contre. Ouais, bon, ça, je ne suis pas
Oui.
étonné.
Mais ça, je trouve que en fait, c'est irresponsable en fait d'un point de vue environnemental. Quand dire qu'il faut plus de sobriété, ça, c'est encore une fois, c'est évident, mais s'opposer à ces projets-là, en fait. On peut pas être contre tout. Effectivement, avoir une position, être contre tout, ça permet de rester pur parce qu'on a signé pour rien qui présente le moindre impact. Mais in fine, ça veut dire que les décisions se prendront en dépit de ces positions. Et en fait, être contre tout, ça revient à faire le jeu des combustibles fossiles.
Ou d'une extraction pire
Ou
ailleurs.
d'une extraction étrange et pire ailleurs. Ouais.
Mais c'est... Ouais, je pense... Enfin, c'est une position qui me paraît difficile à défendre parce que c'est quand même... Enfin, c'est quand même impossible qu'on se passe entièrement de lithium. Donc à partir de là, c'est compliqué, je trouve, de s'opposer à l'extraction sur le territoire. Sauf à juger qu'on est meilleur que les autres et vaut mieux que ça se passe sous l'un des yeux, quoi.
Mais tu vois, en fait, je pense qu'il y a à peu près le même type de risque à se dire qu'on va résoudre la problématique climatique et les différentes problématiques environnementales qui peuvent aller avec, je pense aussi à l'effondrement de la biodiversité, avec des approches uniquement technologiques, c'est-à-dire le consommateur citoyen n'a qu'un effort à faire et via des nouveaux systèmes, on arrivera à tout résoudre, qu'à se dire que, en fait, tout va être du côté du consommateur qui, du jour au lendemain, va accepter de vivre avec parents et grands-parents dans un appartement de 30 mètres carrés. J'exagère, mais faut pas sous-estimer non plus l'inertie des populations. On est chacun prêt à accepter différentes choses et on ne peut pas généraliser ce qu'on est prêt à accepter personnellement aux autres. Déjà parce que même avec un même niveau de conscience environnementale, d'éducation, etc., on a des réalités différentes. C'est-à-dire que si vous habitez à Béribouy, dans le Berry, ce qui est pas très loin de là d'où je viens, ou dans le 5e arrondissement de Paris, bah, vous n'avez pas du tout la même vie, vous n'avez pas du tout les mêmes contraintes. Et après, les gens ont aussi des métiers très différents, des taux de sensibilité à ces questions très différents, des contraintes économiques très différentes. Donc, en fait, pour réussir à atteindre la neutralité carbone, il va falloir réussir à trouver le chemin de crête entre quelque chose qui soit techniquement crédible et quelque chose qui soit économiquement et socialement crédible. Et donc, en fait, c'est là-dessus, d'ailleurs, qui convient de regarder tous les scénarios qu'on peut voir, les scénarios de RTE, de l'AIE, de l'ADEME, de Négawatt, etc. Si le travail de modélisation est plutôt bien fait, c'est pas trop sur des biais de modélisation qu'on va aller chercher la petite bête, c'est plutôt sur les hypothèses, en fait. Quelles hypothèses semblent facilement atteignables et quelles hypothèses semblent représenter un pari technologique, économique ou de société? Et là-dessus, je pense qu'il faut anticiper l'échec et essayer de rester suffisamment lucide.
Et ouais, il y avait une réflexion sur le fait que...
Oui, effectivement, lycée Marguerite de Navarre pour Simgasat, qui me demandait quel lycée.
Ah
Visiblement, il y a quelqu'un de Bourges ou du coin là.
ah. Il y avait une réflexion sur le fait qu'on n'avait pas de terres rares en Europe. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur les ressources qu'on aurait sur le territoire européen? Parce que c'est aussi, enfin, il y a des ressources qui n'apparaissent pas parce qu'en fait on n'a pas tellement prospecté en Europe et que ça fait longtemps qu'on n'a plus trop de volonté d'ouvrir des mines, non?
Alors là, honnêtement, je ne les connais pas, hein, les ressources en terres rares en Europe. Et puis, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on connaît mal le sous-sol français. Alors dans le reste de l'Europe, je ne sais pas si c'est la même chose.
Je crois que les Suédois sont restés un peu des mineurs. Et eux, du coup, ils ont un gisement de terres rares intéressant dans un gisement de
Ok.
fer. Mais c'est relativement récent. Attendez, je peux peut-être back en regardant.
Après, par contre, il y avait sur les terres rares, il y avait une. Alors, je sais pas si elle existe toujours. Je me demande si elle n'a pas fermé, mais il y avait une usine de retraitement de recyclage de terres rares qui était exploitée par Rhodia, donc Solvay ensuite à La Rochelle. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut faire. Sachant que la collecte recyclage ne peut répondre qu'à une fraction de la demande tant que la demande est croissante. Donc c'est
Ouais.
nécessaire de le faire, il faut le faire le plus possible, mais c'est pas suffisant.
Elle a été délocalisée en 1990, Poulton.
Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais.
Alors oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de terres rares dans les batteries, mais il y en a dans les moteurs électriques et il y en a besoin pour d'autres applications aussi. Et dans les moteurs électriques, par des voitures électriques, mais aussi des TGV, les lève-vite là dans votre voiture, c'est un petit moteur avec des terres rares, les téléphones, etc. Il y en a dans tous les aimants permanents
Mais
petits.
ça, sur les matières, c'est vraiment important en fait de sécuriser nos approvisionnements parce que pour plusieurs métaux nécessaires pour la transition, il est possible, voire dans certains cas probable, de faire qu'on fasse face à des contraintes dans les années à venir. Alors pas forcément des contraintes géologiques, mais des contraintes de déséquilibre offre-demande parce que ouvrir une mine, ça prend du temps. Quand l'exploration était bien faite, il faut quand même 10 ans pour ouvrir une mine. Il y a des contraintes d'acceptabilité, c'est-à-dire que même si un gisement intéressant à un endroit, il n'est pas dit qu'on puisse forcément l'ouvrir. Alors c'est très vrai en Europe, mais ça commence à l'être dans d'autres pays. Il y a des mines de cuivre, si je ne dis pas de bêtises, qu'on fermait. J'ai un doute si c'était au Pérou ou au Chili, mais pour des raisons d'acceptabilité. Il peut y avoir des questions environnementales. S'il n'y a pas d'eau à un endroit, bah, ça peut être plus compliqué d'exploiter un gisement. Il y a des questions géopolitique et politique. Par exemple, si vous craignez, vous êtes une entreprise minière, il va vous falloir un peu plus d'1 milliard d'euros pour ouvrir une mine qui va commencer à produire dans 10 ans. Si vous craignez qu'il y ait un coup d'État dans le pays ou que le gouvernement du pays vous nationalise la mine, bah vous n'allez pas investir 1 milliard. Donc, il y a beau avoir un gisement intéressant, vous allez pas y aller. Donc, en fait, il y a tout un tas de contraintes comme ça. Qui complexifie les investissements. Et quand vous avez une demande qui décolle, je pense au lithium par exemple, même si l'offre va augmenter fortement dans les années à venir, il y a quand même des craintes assez sérieuses sur des déséquilibres offre-demande en fin de décennie. Donc toute capacité de production qu'on aura sur notre territoire, à ce titre-là sera la bienvenue.
Alors, beaucoup de réactions sur les métaux. Hein. Déjà, on signale qu'on peut se passer des terres rares dans les moteurs, et c'est vrai. Une partie des
Mais
terres
ça veut
rares et
dire plus de
l'azote,
cuivre.
ça veut dire plus de cuivre. Et
Qui présente aussi des
écologiquement,
problèmes.
écologiquement et en termes de contraintes, c'est pas évident comme calcul. Ouais.
Il y avait une note, tiens, vu qu'on a mis en place le fait que je puisse montrer mon écran tout à l'heure et que ça nous a
Alors,
pris 10 minutes.
faut que tu me dises, vas-y.
Wood Mackenzie, qui est l'un des gros cabinets
En dessous,
de.
je pense, non? Copper
Tac, tac,
Outlook,
tac.
on forecast.
Ouais, non, c'était pas celui-là. Je vais voir si je le retrouve. Ah, voilà, c'était ça. Wood Mackenzie qui a publié une étude là-dessus qui était assez intéressante avec des graphiques qui étaient pas mal. Donc, Wood Mackenzie, c'est l'un des gros cabinets de conseil sur les marchés de matières premières, donc énergie et métaux. Et donc, ils ont publié une étude. L'évolution de la demande des véhicules électriques. Supply gap as percentage of consumption. Donc, globalement, en fait, ce qui montrait, c'est que dans les scénarios les plus allants sur la décarbonation, on risquait d'avoir des manques d'approvisionnement en lithium du fait d'un déficit d'investissement. Et les déficits d'investissement, bah, il faut du temps pour les résorber parce que, encore une fois, les projets miniers ont de l'inertie. Et que, en fait, quand on regarde les projets miniers qui ont été mis en œuvre dans les dernières années, c'est insuffisant pour répondre à la demande. Ouais, je sais pas, en fait, j'avais peut-être pas de il y avait peut-être pas de graphique qui était hyper parlant là-dessus.
Ouais, et donc on a eu un peu une perte en Europe quand même de la prospection et des mines. Il y a Captain
Ouais, là,
Coco
on voit.
qui nous dit en Europe on a le Geological Service for Europe qui bosse là-dessus. Sur voir les différents potentiels.
Ouais, bah, en fait, il y a déjà des choses, et puis la réglementation là, sur les matières premières critiques, Met en place aussi une certaine concertation au niveau européen, impose des objectifs d'extraction sur le territoire européen, de raffinage, de recyclage. Après, il faudra voir comment ça va être mis en œuvre. Le problème, si je me souviens bien, c'est que les objectifs sont à assez courte échéance, 2030, et en fait, ce sont des échéances qui sont trop courtes vis-à-vis des métaux. En fait, les capacités d'extraction en Europe en 2030, elles dépendent de projets qui sont déjà engagés maintenant. Donc c'est très bien en fait de mettre des objectifs en 2030 parce que ça donne un signal, mais il faudrait donner des objectifs aussi à des échéances plus lointaines pour vraiment montrer une trajectoire et puis mettre aussi des outils qui obligent à atteindre ces objectifs. Si on dit bah ouais, il faudrait idéalement qu'on ait X% de métaux extraits en Europe ou pas plus de 30% qui viennent d'un même pays dans l'approvisionnement, bah, si c'est pas contraignant et s'il n'y a pas de contrepartie à ça, bah, ça risque de ne pas se matérialiser. Donc,
Et Shoclocklate dit, et puis pareil, on n'a plus trop d'ingénieurs miniers maintenant. On n'a plus que deux écoles en France, sans parler des ouvriers spécialisés.
Ouais, alors je connais pas trop l'état des formations. Il y a plusieurs écoles des mines. Après, est-ce qu'elles font encore toutes
Font des
des
mines.
formations dans les mines? Ça, je sais pas.
Et y a un truc aussi là-dessus. J'ai regardé la vidéo de Monsieur Bidouille, moi, que je trouve très cool. Hein. Et c'est pas parce que je suis dedans. C'est pas parce qu'il y a un petit bout de moi. Et il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est qu'il montre ça serait électrifié et piloté à distance, notamment pour les activités souterraines. Et là, je trouve que ça permet de montrer aussi. Souvent, il y a cette idée que les ressources fossiles sont indispensables à l'activité minière, et là, en fait, c'est une mine qui a l'air au moins très largement électrifiée, quoi.
Oui, bah c'était l'une des volontés du projet. Pareil sur le transport, donc sous forme liquide jusqu'à la gare de chargement qui est dans un village, une ville pas très loin, et ensuite par train.
Et Francis Poulton a une bonne remarque aussi, il dit mais les mines c'est pas hyper sexy, et comme dit Emmanuel H, pardon, les mines ne sont pas dans la taxonomie verte.
Ouais, pour l'instant, ça n'a pas été couvert, effectivement.
Ça serait une manière d'assumer le truc jusqu'au bout quand même, hein.
Oui, bah, effectivement, c'est. En fait, si on veut certaines choses qui sont dans la taxonomie, je pense aux éoliennes, aux panneaux solaires, etc., bah, il va falloir aussi les métaux qui vont derrière. Alors, sur le fond, la taxonomie, je pense que c'est quelque chose. Intellectuellement, qui est très bien, c'est-à-dire orienter les capitaux privés vers certaines activités plutôt que vers d'autres. Le problème, c'est que le politique, bon, c'était déjà compliqué à mettre en œuvre, à déterminer les critères, etc. Et le politique a eu du mal à se retenir de mettre les mains dedans. Donc, il y a des choses qui sont un peu critiquables et qui devront être, à mon sens, corrigées. Par exemple, il y a une limite sur ce qu'on définit comme bas carbone pour l'hydraulique, c'est-à-dire 100 grammes de CO2 par kilowattheure. Au-dessus, c'est pas bas carbone, en dessous, c'est bas carbone. Donc ça, dont acte, hein. On aurait pu dire que c'était 50 ou 150. À un moment, on met une 42, parce que pas 43, on a dit que c'était 100. Mais par contre, à partir du moment où on dit que la limite bas carbone, c'est 100, il faudrait le mettre pour tout. Et par exemple, il n'y a pas de critère à 100 grammes de CO2 par kilowattheure pour l'éolien et le solaire PV, parce qu'on était encore à un moment où l'éolien et le solaire PV, c'est par définition bien. Et donc, il n'y a pas besoin de mettre de critères. Ben non, en fait, il faut avoir une approche rigoureuse. À partir du moment où on a défini que bas carbone, c'était avec tel critère, ben, on l'applique à toutes les sources d'énergie. Et d'ailleurs, ce qui pourrait être intéressant, c'est que ça permet de discriminer des équipements qui viennent de tel ou tel pays, parce que dans tel pays, ils auront été produits avec un bilan carbone plus élevé.
Aujourd'hui, avoir des éoliennes et des panneaux à 100 grammes, faut y aller quand même.
Oui, non, mais enfin, là,
Hein.
je pensais pas forcément là-dessus, mais en fait, même
Ouais, plus
philosophiquement,
avoir
je
une
pense que
cohérence,
ce
ouais.
que je veux dire, c'est que c'est même si ça devait en fait bloquer une partie de la production, c'est pas forcément une mauvaise chose. En fait, si on se dit que 100 grammes de CO2 par kilowattheure, c'est la limite qu'on accepte, bah, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on accepterait des équipements qui hypothétiquement pourraient être au-delà?
Ouais. Ouais, non, mais c'est important, je pense, d'avoir un critère cohérent pour toutes les technos. Ok. des remarques d'autres vies avec lesquelles je ne suis pas d'accord,
Mais non,
évidemment, mais...
enfin pour dire, enfin pour répondre au bétonnier qui dit l'éolien du solaire au-dessus de 100 grammes, c'est construit dans quelles conditions? Non, enfin soyons clairs, l'éolien et le solaire sont bien en dessous de 100 grammes de CO2 par kilowattheure.
Après,
Pas qu'on me reproche de dire des grosses bêtises. Hein.
et taxonomie, je sais pas si tu voulais en parler plus sur la guerre du nucléaire, du gaz et tout. On fait pas ce match-là.
Ouais, ça c'était pas glorieux, hein, pour être honnête. Bah là encore,
Ah ouais,
ça a
juste avant,
été.
Poulton il dit mettre 50 grammes, ça aurait été mieux, ça aurait permis d'exclure les pertes.
Ouais,
100 grammes,
bon.
pourquoi pas 42 du coup?
Ouais, bah on peut toujours discuter des limites. Bah
Après, une fois que
sur.
c'est sorti, ça peut évoluer ces limites en fait.
Oui, de toute façon, la taxonomie est censée être revue régulièrement. Pour le nucléaire, par exemple, donc il y avait eu un rapport d'experts qui était sorti à l'été, je ne sais plus si c'était 2019 ou 2020, ça devait être 2019, qui proposait tout un tas de critères pour la taxonomie. Alors, la taxonomie, c'est censé orienter les financements privés vers des activités qui sont durables, au sens où elles contribuent significativement à l'un des six critères que je vais évoquer, sans nuire significativement à un autre des six critères que je vais évoquer. Dans les six critères, il y a atténuation du changement climatique, adaptation au changement climatique, protection des eaux, il devait y avoir la biodiversité, la pollution de l'air, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? L'économie circulaire. À vérifier, mais en gros, c'est surtout le climat qui a été traité. En fait, là, le premier paquet, c'était sur l'atténuation au changement climatique. Et donc, sur le nucléaire, ce rapport d'experts avait dit que, bon, de fait, il est incontestable que le nucléaire était bas carbone, mais qu'il n'avait pas les compétences pour se positionner sur les autres aspects environnementaux et notamment les impacts environnementaux liés aux déchets. Donc, ils ne disaient pas que le nucléaire n'était pas bien ou qu'il était bien, ils disaient qu'ils n'avaient pas les compétences et ils appelaient la Commission européenne à mettre en place un groupe d'experts qui aurait les compétences pour trancher là-dedans. Donc, un certain nombre de pays ont fortement appelé la Commission européenne à mettre en place ce groupe d'experts. La Commission européenne a tergiversé. À l'époque, elle n'était pas très favorable au nucléaire, on peut le dire. Et in fine, ce qui a été décidé, c'est que ce serait le CCR, le Centre commun de recherche de l'Union européenne, qui est l'organisme qui a un rôle de conseil scientifique à la Commission européenne, enfin, qui dépend de la Commission européenne, qui devait faire cette étude-là, et que cette étude serait expertisée par deux groupes d'experts indépendants, un groupe qui dépend du traité Euratom et un groupe, le groupe SHEER, qui est SHEER, qui est sur les risques émergents et la santé, qui était complètement sous l'eau avec le Covid et qui n'était pas spécialement compétent là-dedans, donc a fait un rapport un peu laconique disant que bah, ils n'avaient pas grand-chose à dire là-dessus. Ils ont essayé de soulever un ou deux points, mais et globalement, donc le CCR a fait un gros rapport de plus de 400 pages qui a été globalement validé par le comité d'experts d'Euratom et qui disait que bah, en fait, l'énergie nucléaire présentait des impacts environnementaux sur les critères qui étaient étudiés dans la taxonomie, qui étaient comparables, voire inférieurs à d'autres technologies qui avaient été introduites, comme les énergies renouvelables ou la capture et stockage de carbone. Et donc, in fine, la Commission européenne a introduit le nucléaire. Alors là, il y a eu pas mal de jeux politiques avec des retards pour ne pas l'intégrer dans le texte principal, ce qui aurait permis de la Commission de le rejeter plus facilement, etc. Donc, ils ont mis ça dans un autre texte avec le gaz et un certain nombre de critères bon, qui étaient très discutables sur le nucléaire, c'est-à-dire il y a des dates butoirs en 2035 et 40 ou 40 et 45 sur la prolongation des centrales et sur la construction des nouvelles centrales. Il y a des critères sur des combustibles qui n'existent pas aussi. Donc il faut que les centrales utilisent des combustibles qui ne sont pas vraiment définis, des combustibles dits tolérants aux accidents. Alors il y a des travaux de recherche là-dessus, mais ce n'est pas un concept qui est vraiment défini. Donc ça, en fait, ça, après, ça a suscité tout un tas de questions. Mais donc voilà, en fait,
C'est
c'est.
compliqué le
Moi,
nucléaire au niveau de l'Union européenne, hein?
bah, le problème, c'est que qu'on n'arrive pas à traiter ça de façon dépassionnée, en fait. Et quand on commence à traiter des questions énergétiques, techniques, complexes de façon passionnée, Ben, on fait pas. Je pense qu'il faut il faut bien être capable de séparer ce qui relève du politique et ce qui relève du politique est important. Enfin, il y a vraiment des décisions qui sont politiques et pas techniques, de ce qui relève du technique. C'est-à-dire que quand le politique a l'ambition de faire une classification des technologies sur leurs impacts environnementaux qui soit technique, bah, une fois qu'il a dit ça et qu'on a fixé éventuellement politiquement certains seuils, bah, après la déclinaison de cette classification doit être technique. Et quand on commence à se dire ouais ça j'aime bien donc ça doit être dedans et ça j'aime pas ça doit pas être dedans.
Et sur le. Il y a Choco Clay qui dit ça existe maintenant, le fioul tolérant a fini son premier cycle dans un réacteur américain. Alors que c'est Framatome qui l'a produit. Je sais pas si tu.
Ouais, alors les Américains ont travaillé là-dessus, ils avaient certifié quelque chose. Après, il y a rien de certifié en Europe à ma connaissance. Et puis de toute façon, les certifications, c'est pas au niveau européen, c'est au niveau des pays. Donc en fait, les combustibles qu'EDF a le droit de mettre dans ses réacteurs sont des combustibles, ce sont des combustibles qui ont des autorisations par l'autorité de sûreté. Donc en fait, même s'il existe éventuellement d'autres choses à des stades plus ou moins avancés dans d'autres pays, tant que ce n'est pas certifié en France, on n'a pas le droit de l'utiliser en France. Après, je ne suis pas le meilleur je suis pas le mieux placé pour vous parler de ces technologies-là, honnêtement.
Ok. ouais, il y avait quelques réactions de chat. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets que tu voulais aborder? Des trucs connexes à ce qu'on a discuté ici, que tu aurais raté?
Non, bah je. Il y a certains aspects qui ont pu paraître un peu critiques, et effectivement, ça a pu l'être, mais pour être très clair, je pense que quand on parlait d'industrie tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui doivent se faire au niveau de l'Union européenne. On ne s'en sortira pas tout seul, et il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, l'Union européenne a des défauts, mais elle a aussi pas mal de qualités. Le fait de respecter le droit international, d'être mieux disant que les autres, bah, c'est aussi quelque chose dont on peut s'enorgueillir. Alors, il faut que ce soit limité, évidemment. À un moment, il faut aussi se faire respecter, mais c'est un bel outil. Et là, je pense qu'il commence à y avoir une volonté politique pour faire avancer les choses. Donc, c'est pas parce que il y a pu y avoir des insuffisances dans certains domaines, parce que la vision du monde a pu être différente aussi par le passé, que ces insuffisances sont condamnées à rester perpétuellement. Et l'Union européenne sera ce qu'on en fera, et il y a des débats intéressants qui émergent là-dessus en ce moment.
Et tu veux parler un peu des prochaines élections ou tu préfères ne pas t'aventurer sur ce sujet? Globalement, tu penses qu'il y a plus de place accordée à cette question, mais est-ce qu'il y a des propositions ou des partis qui s'en sortent mieux que d'autres?
C'est compliqué en fait.
Flopo est plus direct, il te demande tu votes qui le 9 juin prochain?
Alors ça je répondrai pas, je répondrai certainement pas à la question. Mais par contre je voterai, ça c'est important.
C'est important
C'est
de
sûr.
voter, ouais. Franchement,
Ouais.
faudra se bouger et faut arrêter
Pour
de laisser les autres décider pour nous, quoi.
essayer d'être un peu factuel, on s'attend quand même à une montée des populismes d'extrême droite dans le prochain Parlement européen. Il y a aussi des attaques de la part de certains partis vis-à-vis du Green Deal, le pacte vert, en fait, qui est l'ensemble des mesures qui ont été mises en place par la Commission. Alors, certes, il y a des insuffisances dans la taxonomie, etc. Il y a des biais, mais il y a quand même beaucoup de bonnes choses aussi dedans. Alors, qui peuvent être incomplètes, qui vont pas forcément assez loin, mais se mettre d'accord à 27, c'est loin d'être facile. Et donc, revenir là-dessus, je pense que sur pas mal de points, ce serait vraiment une erreur, voire une faute. Par exemple, revenir sur la fin des véhicules thermiques en 2035, ce serait catastrophique pour l'industrie automobile européenne. Et pour le climat et pour la sécurité enfin la pérennité de l'offre de mobilité en Europe. C'est-à-dire que si on continue à dépendre du pétrole dans un contexte où L'adéquation offre-demande pose question quand même à moyen terme. Ça veut dire que les ménages les plus fragiles risquent d'en pâtir. Donc, il faut corriger ce qu'il est, mais attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et quelque chose que je regrette, et ça je peux le dire, parce que pour le coup, j'ai regardé un peu, alors peut-être pas tous les programmes, mais une bonne partie des programmes. Ça manque quand même. Il y a dans la quasi-totalité des parties, un manque de technicité et de sérieux vis-à-vis des questions climatiques et énergétiques, avec des jeux d'acteurs anti-nucléaires, anti-renouvelables, des positions assez fortes qui sont clivantes politiquement et qui permettent de se positionner dans tel camp ou dans tel autre. Mais enfin, la plupart des partis, au moins les partis les plus importants, ont des députés européens. Donc, ils ont déjà des gens qui suivent ces sujets-là depuis longtemps et qui connaissent ces sujets-là. Donc, ils ont la capacité, s'ils le veulent, à faire quelque chose d'un peu solide. Donc, c'est aussi, je pense, le rôle de tous les citoyens d'être exigeants vis-à-vis de ces partis. Enfin, que vous soyez plutôt de droite ou plutôt de gauche, peu importe. Enfin, je pense qu'il est important d'être exigeant vis-à-vis de ces partis, et pas uniquement critiquer les autres partis, mais si vous voulez que votre parti soit performant et utile, en fait, il faut être capable de dire à vos élus, à ceux qui sont plutôt de votre camp, quand ils vous semblent ne pas être à la hauteur.
Ah ouais. Bah, je te rejoins là-dessus, moi qui suis connu pour être la critique contre mon camp et
Parce que
parfois un peu attaqué là-dessus.
les approches purement claniques, où ouais, c'est mon camp qui a dit ça, donc je vais soutenir de façon pavlovienne. En fait, ça, c'est pas ça qui aide à faire progresser le débat.
Alric38 dit en utilisant nos terres pour faire des agrocarburants, plus besoin de véhicules électriques. Alors les agrocarburants, il faudra à peu près genre une surface 50 à 100 fois plus grande pour la même mobilité. Tu vois, si tu fais l'analyse énergétique, je sais pas si tu as déjà fait ces calculs-là.
Alors,
Genre
sur les agrocarburants.
PV contre agrocarburant, genre ton énergie à l'hectare, le photovoltaïque, éclate les agrocarburants, quoi. En fait, on n'a pas les volumes d'agrocarburants pour la mobilité légère aujourd'hui en Europe, ça serait des volumes démentiels.
Ah oui, et puis même sur les électrocarburants, donc les carburants faits à partir de CO2 de récupération et d'hydrogène, qu'il va falloir faire, mais ça va nécessiter des quantités d'électricité absolument colossales, ça va coûter cher aussi, donc il faut être prudent. Là encore, quelle que soit la technologie, l'approche, le moyen de solution pour décarboner, il faut avoir une vision nuancée. Il n'y a pas une solution qui va répondre à tout. On aura besoin de biocarburants et de carburants de synthèse pour décarboner l'aviation, parce qu'en 2060, 70, il restera des avions, parce que pour aller à l'autre bout du monde, parce qu'il restera des diplomates, il restera des familles éclatées, etc., ça restera utile. On aura besoin de ça. Par contre, ce sont des choses qui vont rester coûteuses, limitées en volume, de par le gisement de biomasse pour les agrocarburants, d'électricité bas carbone et de CO2 de récupération pour les électrocarburants. Et par exemple, OCE, on s'était amusé à faire le calcul, de mémoire, pour répondre aux objectifs européen d'introduction d'électrocarburants en 2050, il fallait en termes d'électricité l'équivalent d'un peu plus d'une centaine de si, alors de mémoire hein, de plus d'une centaine de réacteurs nucléaires de 900 mégawatts. Et
Bon, pour le dire rapidement, on aura besoin pour certains usages spécifiques, mais la mobilité
voilà.
légère ne se fera pas avec des agrocarburants ou des électrocarburants, quoi.
Voilà, et ça veut dire aussi que sur l'aérien, en fait, la décarbonation de l'aérien, ça passera entre on supprime l'avion et ça va être l'avion vert. En fait, ça va être entre les deux. C'est-à-dire qu'il va falloir réduire le trafic aérien. Donc, partout où il y a des alternatives, court et moyen courrier, il va falloir développer les alternatives au détriment de l'avion. Concentrer l'avion sur le secteur où il y a le plus de. Où sa plus-value est la plus importante, donc le long courrier, tout en essayant d'endiguer le trafic quand même là-dessus. et développer en parallèle des carburants bas carbone pour pouvoir répondre à ça, en faisant attention à la provenance de ces carburants. Et pareil, sur l'hydrogène et les biocarburants, il faut les mettre en priorité là où ils sont indispensables pour la décarbonation. Donc l'hydrogène, par exemple, ça va être dans l'industrie, éventuellement un peu dans certains segments de mobilité lourde via des carburants dérivés, notamment l'aviation, mais c'est certainement pas dans la mobilité légère. Parce que c'est moins efficace et qu'il y a d'autres solutions plus performantes pour décarboner la mobilité légère.
Il y a Yann Ducep qui a une question un peu en décalage, je ne sais pas si tu connais. Est-ce que les projets de certaines startups, attends, ça a sauté, de certaines startups du nucléaire sont-ils vraiment réalistes? Je ne sais pas si tu connais ces sujets. Jimmy, je ne le sens pas trop, leur projet est combustible à l'E et tout, ça te parle ça?
Oui, ça me parle. Alors bon, je ne me prononcerai pas sur un projet en particulier, etc. Pas que j'ai pas d'avis, mais voilà. Par contre, évidemment, tous les projets ne verront pas le jour. Là, l'approche qui a été retenue en France, c'est de faire un appel d'offres en trois étapes, avec des financements qui vont aller en entonnoir. Et donc, il va y avoir une certaine sélection naturelle. Donc là, il y a une multiplicité de concepts qui émergent. Il y en a qui sont plus crédibles que d'autres, certains plus matures que d'autres. Il est important de garder les pieds sur terre et d'avoir les idées claires quant au phasage de ces projets. C'est-à-dire que déjà, pour un réacteur à eau pressurisée, donc classique, ce qu'on exploite actuellement en France, si on veut faire un petit réacteur modulaire, faut compter une petite dizaine d'années quand même pour le concevoir. Donc ça prend quand même du temps. Si on veut faire des réacteurs avancés, donc les startups c'est plutôt pour les réacteurs avancés, ça va être des réacteurs alors soit à neutrons thermiques modérés type Jimmy, soit la plupart du temps à neutrons rapides refroidis au sodium, au plomb, au plomb bismuth, au sel fondu, aux températures refroidies à gaz. Enfin, il y a tout un tas, une diversité de concepts, mais tous n'ont pas la même maturité. Autant le sodium liquide, par exemple, c'est quelque chose qu'on a beaucoup exploré en France et à l'étranger. On a pas mal de retours d'expérience. En France, on a exploité Rhapsody, Phoenix, Super Phoenix. Si on part sur des. Donc, ça nécessitera quand même plus de temps que des réacteurs à eau pressurisée si on veut les mettre en œuvre. Mais ça en nécessitera quand même moins que d'autres concepts qui sont plus exploratoires, comme les sels fondus. Par exemple, sur le papier, les sels fondus, c'est intéressant. Par contre, il reste beaucoup de travaux de recherche à faire sur les matériaux, sur le cycle aussi, parce que travailler sur des combustibles liquides, retraiter des combustibles liquides, bah, c'est tout sauf trivial. Alors, c'est pas a priori pas impossible, mais bon, ça demande du développement qu'on n'a pas fait. Donc, ça veut dire que c'est maturité moindre, ce sont des délais. Des délais plus longs. Donc attention à la fois sur la fission et sur la fusion aux discours qui vous disent ouais, t'inquiète poteau, dans 3 ans je te sors ton réacteur. En fait, c'est quand même plus compliqué, c'est plus compliqué que ça. Et je pense d'ailleurs que c'est un peu dangereux en fait de tenir ce genre de discours parce que tout ça contribue à entraîner de la déception. Et puis quand on a promis aux gens des choses qui sont complètement intenables et qui ils le réalisent, bah après, la confiance se perd. La confiance, ça se perd facilement, ça se gagne difficilement. SMR, ah oui, il y a quelqu'un qui demande ce qu'est un SMR. Désolé, c'est vrai qu'on aurait pu définir les termes. SMR, c'est Small Modular Reactor en anglais, donc c'est petit réacteur modulaire. En fait, l'idée derrière ça, jusqu'à présent, on a fait des réacteurs qui étaient de plus en plus gros pour faire des économies d'échelle. En gros, faire les autorisations pour un site, concevoir un réacteur, le construire. Si vous faites un réacteur de 900 MW ou de 1100, 1200 MW, le chantier ne va pas être forcément beaucoup plus compliqué, il ne prendra pas beaucoup plus de place, etc. Par contre, à la fin, vous aurez 200-300 MW en plus sur lesquels vous allez pouvoir amortir davantage, donc ce sera plus rentable. Donc, historiquement, on est passé de 400 et des poussières à 900, 1300, 1450 MW, et puis l'EPR, c'est 1600, 1650 MW. Sauf que, bon, déjà, à partir d'une certaine taille, il y a des difficultés aussi qui émergent de par la taille. Et ces réacteurs-là, même s'ils sont particulièrement efficaces, ne permettent pas de répondre à tous les marchés. Les petits pays, les zones peu interconnectées, par exemple, ne peuvent pas absorber un EPR. Si on prend les États-Unis, côte ouest, ils pourraient absorber un gros réacteur type EPR, AP1000, donc des gros réacteurs. Par contre, le Midwest, ce n'est pas possible. Vous n'avez pas grand monde, un réseau qui est très vieillissant, hyper distendu. Vous mettez un EPR au milieu. Quand vous l'allumez, vous faites fondre le réseau. Quand vous l'éteignez, vous faites effondrer le réseau. Donc, enfin, c'est pas possible. Donc, déjà, faire des petits réacteurs, ça permettait de pouvoir répondre à une demande à laquelle on ne pouvait pas répondre avec le gros réacteur. Et ça permettait aussi En fait, c'est un modèle économique, c'est une philosophie différente. C'est-à-dire que là, on ne va pas avoir d'économie d'échelle par la taille, évidemment, c'est un petit réacteur. Par contre, on va essayer d'avoir une économie d'échelle par la sérialisation. Donc, vous allez faire le maximum de pièces en usine, le moins d'étapes d'assemblage possible sur site, ce qui va permettre de réduire la durée de construction sur site, donc le coût du capital et donc le coût du mégawattheure. Parce qu'en fait, ce qui coûte cher dans le nucléaire, ce n'est pas d'exploiter la centrale, c'est de la construire et de financer la construction. Et plus ça prend de temps, plus c'est compliqué. Et donc, pour pouvoir faire des économies avec les SMR, il va falloir en construire beaucoup. Donc, ce n'est pas sur la taille, mais sur la quantité que vous allez pouvoir faire les économies. Et ça peut aussi permettre de répondre à l'un des principaux freins du nucléaire, qui, à mon sens, la capacité à le financer. En fait, financer un gros réacteur, c'est très compliqué. Globalement, ça coûte un EPR à la louche une dizaine de milliards d'euros et ça prend 10 ans à construire. Difficultés type Flamanville, Olkiluoto, bah ça c'est sur les marchés, c'est extrêmement compliqué à financer. Et si on prend un État favorable comme la Pologne, bah ça fait longtemps qu'ils sont favorables au nucléaire, ça fait longtemps qu'il se passe rien parce que c'est la question du financement est prégnante. Donc sur les petits réacteurs modulaires, déjà ça permettrait donc de raccourcir la durée. Donc de simplifier le financement, et vu que c'est un réacteur plus petit qui coûte moins cher par unité, ça permet de fractionner l'investissement. C'est pareil avec l'éolien, en fait. Si vous vouliez faire 1,6 gigawatt d'éolien d'un seul coup, bah c'est gros. Par contre, si vous faites des champs de 300 mégawatts, bah ça permet de digérer votre investissement.
Ok.
Même si à la fin, le coût du mégawattheure peut coûter la même chose, par exemple.
Il y a des questions qu'on n'avait pas prises, notamment Michi 85 qui a posé deux fois la même, donc je crois que ça lui tient à cœur. Peut-on parler d'hydro? Les régulations de l'Union européenne sont au cœur des enjeux pour l'avenir de l'hydro en France. Quel avenir pour les trois filières? Je sais pas si tu as un peu bossé au niveau de l'hydro au
Alors
niveau
là,
européen.
non,
Pas du tout.
je suis vraiment
Pas de
pas
souci.
suffisamment
Tu sais pas,
compétent. Le
tu sais pas.
seul truc que je pourrais dire, c'est que bon, là, il va falloir qu'on arrive à résoudre le. Actuellement, donc, il y a un blocage sur les concessions. La France ne veut pas ouvrir les concessions à la concurrence pour diverses raisons, notamment des raisons de gestion de l'eau, de services aussi à côté de la production électrique. Or, ça bloque un peu tous les investissements qu'on pourrait faire dans l'hydro parce que même si on ne va pas ouvrir des nouveaux barrages, il y a quand même des investissements qu'on pourrait faire pour augmenter la production ou faire des STEP, convertir des barrages gravitaires en stations de transfert d'énergie par pompage, donc des barrages réversibles. Mais si on fait des travaux, ça veut dire qu'on doit rouvrir la concession. Et donc, vu qu'on ne veut pas rouvrir la concession, pour l'instant, il n'y a pas vraiment les travaux. Donc là, il y a un gros sujet qu'il va falloir réussir à résoudre, mais après, j'ai pas d'idée sur la façon de faire ça.
Il y avait une question aussi de Le Bétonnier. Question à Maxence, dans le débat sur Paris Première où tu as été pertinent,
Merci.
est-ce que. Ah, attends, il a précisé après. Lors du débat, il avait l'impression que Yves Marignac et la représentante de Sortir du Nucléaire n'avaient pas beaucoup d'arguments neufs et semblaient usés. Comment tu as ressenti le truc?
Alors, je ne vais pas refaire le débat après le débat, mais de mon point de vue, bon, je trouve que ce genre de débat pour ou contre le nucléaire est un peu stérile. J'y vais parce que bah, de toute façon, ils l'organisent et qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un en face, parce qu'un débat contre ou contre le nucléaire, ce serait encore pire. Mais je ne vois pas la pertinence de ce genre de débat. De la même façon que je ne verrais pas la pertinence d'un pour ou contre l'éolien, pour ou contre le solaire. En fait, l'énergie, il faut la discuter sous forme de système et dire qu'on est pour ou contre un outil, dans l'absolu, bah, ça me semble assez. Ça me semble assez superficiel en fait, comme
Donc pour ou contre le charbon, ça te parle pas trop non plus.
bon. En fait, non, après, là, c'est plus. Pour contre le charbon, le débat, il est. En fait, il est déjà tranché. En fait, c'est le débat de la décarbonation.
Est-ce que tu as subi des
Mais.
pressions de lobby?
Des pressions de lobby, à quel.
Du lobby allemand, à l'occurrence, pendant ce débat. Non,
Bah,
c'est les questions d'autres vies qui ne sont pas les plus
après,
prisées.
on se fait souvent des images sur les lobbies. Alors, moi, je travaille sur les questions européennes, donc je vois un peu comment
Toi,
ça fonctionne.
t'es un peu un lobby, en fait.
Bah, d'une certaine manière, oui. Alors, pour un organisme de recherche publique, donc enfin, clairement, non, enfin, on n'a rien à vendre. Mais enfin, lobby, c'est pas non plus un gros mot. C'est-à-dire que quand vous voulez faire une réglementation, quelle qu'elle soit, quand elle va affecter un secteur, admettons que vous vouliez faire une réglementation sur l'automobile. Alors soit vous pouvez essayer d'interroger séparément tous les constructeurs automobiles, c'est un peu compliqué, vous n'aurez pas forcément une représentativité. Ça va être, si vous avez Renault qui vous dit un truc, Peugeot qui vous dit, enfin Stellantis qui vous dit autre chose, comment vous allez pondérer les deux? En fait, l'avantage ce qu'on appelle souvent les lobbies, donc vous avez des associations sectorielles, bah ça permet aussi d'avoir des interlocuteurs et d'écouter tout le monde. En fait, je pense que c'est important que dans le processus d'élaboration de la loi, on puisse écouter tout le monde. Par contre, c'est de la responsabilité du législateur d'aller écouter tout le monde et de ne pas arriver avec des idées préconçues, d'être capable d'écouter tous les arguments, d'être capable de se remettre en question, mais d'être capable aussi de garder du recul. Pour se faire sa propre opinion. Et ce qu'on peut parfois reprocher, c'est qu'il y a certains partis qui peuvent, enfin, c'est valable pour tous les partis, hein, avec différents lobbies, qui peuvent avoir plus tendance à écouter certains arguments, certaines organisations, plutôt que d'autres. Moi, je pense qu'il faut écouter tout le monde et faire la part des choses. Et en fait, à part quand vous parlez de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen, en fait, tout ce qui n'est pas élu, d'une certaine manière, est lobby. C'est-à-dire que une entreprise, un centre de recherche, une association sectorielle, une ONG, un syndicat de travailleurs, etc. En fait, tout ça, d'une certaine manière, sont des lobbies, mais ce ne sont pas des gens qui sont sales, hein. Si vous faites une réglementation sur le charbon, je pense que c'est important d'aller écouter ce que dit l'industrie du charbon qui est représentée par Eurocoal. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir prendre pour argent comptant tout ce qu'ils vous disent et qu'il va falloir appliquer ce qu'ils disent. Par contre, c'est intéressant de savoir ce qu'ils pensent.
Ouais, et c'est vrai que lobby, ça a été un peu détourné comme terme. Je pense que maintenant, c'est utilisé pour critiquer l'influence politique de pouvoir économique, quoi. C'est ça qu'on entend souvent.
Ouais, et pour le coup, quand il y a des politiques qui disent ouais, moi je reçois pas les lobbies, moi je trouve ça assez dangereux parce que quand on veut faire une réglementation sur un système technique complexe, bah c'est important d'essayer d'écouter toutes les personnes qui peuvent graviter autour de ce système et avoir des choses à dire dessus. Et si vous vous faites pas vous-même suffisamment confiance pour pouvoir écouter des arguments qui sont pas forcément ceux que vous avez déjà en tête, bah pour l'ouverture d'esprit et essayer de se former, c'est pas la meilleure des choses. Typiquement, enfin, je pense pas beaucoup défendre l'industrie pétrolière, mais quand il y a des auditions de pétroliers à l'Assemblée nationale ou des choses comme ça, bah, j'écoute parce que bah, c'est intéressant de savoir ce qu'ils pensent, de comprendre quelle est leur vision. Je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais c'est important d'écouter.
Ok. Il y a le bon et le mauvais lobby. Combien le tarif pour les mallettes?
Alors ça normalement il y a pas. Alors il y a eu effectivement un scandale avec enfin, le scandale du Qatar Gate où il y a effectivement des sacs de billets qui ont été retrouvés chez certains eurodéputés. Mais depuis, justement, il y a des efforts de transparence qui ont été faits avec un projet de loi justement sur la transparence du lobbying pour le compte d'États étrangers, alors qu'il ne sera pas voté sous cette mandature, mais qui sera reproposé à la prochaine mandature.
Et toi, t'as pas de mallette comme ça à lâcher aux eurodéputés?
Alors, si on avait des mallettes dans la recherche publique, elles ne seraient pas utilisées à ça, hein, pour être honnête. Non, 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 mais c'est souvent, en fait, les interlocuteurs en face veulent surtout comprendre. Alors moi, bon, je travaille pour un organisme de recherche publique. Les sujets sur lesquels on se positionne, ce sont il y a quelques sujets sur lesquels on a des intérêts, qui sont par exemple les sujets de politique de recherche, mais l'essentiel des sujets sont des sujets sur lesquels on a des compétences plus que des intérêts. Donc typiquement, enfin, les sujets qui touchent au climat, à l'environnement, parce qu'il y a le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, il y a des sujets énergétiques, pas mal de sujets énergétiques, ouais. Peu de sujets nucléaires finalement, parce que, ben, y avait peu de sujets nucléaires qui étaient traités au niveau européen jusqu'à présent, mais pas mal de sujets sur les renouvelables, les batteries, les matériaux critiques, etc. Et donc, on essaie de donner la vision qu'on a. Ça ne veut pas dire qu'on a forcément une vision qui est exhaustive sur tout. On a la vision d'un organisme de recherche avec des compétences techniques. On n'a pas forcément la vision, par exemple, que va avoir un syndicat qui va avoir une vision plus sur les aspects sociaux en lien avec les travailleurs, par exemple, sur certaines industries. Donc, chacun va arriver avec sa vision. Un industriel, lui, va expliquer comment est-ce qu'il peut ou non produire certaines choses, sous quelles conditions, quelles vont être ses contraintes économiques. Et en fait, après, c'est aux politiques de monter en compétence en essayant d'interroger un peu tous ces acteurs-là pour se faire une idée. Et après, les associations sectorielles permettent d'avoir une voix unique, ce qui simplifie aussi un peu. Par exemple, si vous voulez vous voulez faire des je sais pas moi, une législation sur l'éolien, plutôt que d'aller voir tous les fabricants de turbines éoliennes, les exploitants d'éoliennes, etc., c'est aussi intéressant. Alors, vous allez en voir certains, évidemment, notamment les plus gros, mais c'est aussi intéressant d'aller voir l'association qui va les représenter, qui est Wind Europe, qui centralise un peu la vision de tous ces industriels-là. Et donc, quand cette association vous donne un avis, vous savez que ça engage globalement l'ensemble de ces industriels. Donc, c'est. Ça apporte un peu de clarté.
Je regardais un peu le chat. Il y a un truc avec Shell et des faux de crédit carbone. J'ai l'impression que c'est une actualité vraiment récente. Je sais pas si tu as vu passer
Ouais,
ça.
alors j'en ai vite fait entendu parler, mais
Je
honnêtement, je
crois que
sais
c'est un
pas du
truc au
tout.
Canada et tout. C'est pas tout à fait notre.
Donc, vraiment rien à dire là-dessus.
Et maintenant, il y a une plainte, la Russie qui aurait payé plusieurs eurodéputés. T'as vu ça?
J'ai vu passer effectivement ça. Je ne sais pas trop ce que ça a donné. Après, bon, c'est sûr que des manœuvres d'ingérence étrangères dans les élections, c'est pas nouveau, mais c'est quelque chose qui croît fortement. Et donc là, maintenant, il y a d'ailleurs un service qui a été créé il y a quelques années au sein du secrétaire général à la défense et à la sécurité nationale, qui s'appelle Viginum, qui a pour mission de cartographier ces manœuvres d'ingérence dans les élections. Après, là, de toute façon, s'il y a une plainte, après, j'imagine qu'il y aura un procès, une enquête, et donc on verra ce qui émerge de ça.
Ok, je pense qu'on se rapproche un peu de la fin du live. S'il y a encore quelques questions, on peut essayer de les prendre. Et voilà, je sais pas s'il y a encore des trucs sur lesquels je voulais réagir. Et après, il faut que je leur trouve un endroit pour les envoyer. Ouais, un mot de la fin, Maxence?
Non, on a discuté de beaucoup de sujets. Je pense que ce qui est important, en fait, quand on s'intéresse à des systèmes complexes, l'énergie, le climat, la biodiversité, c'est de pas arriver avec des certitudes toutes faites et des gros sabots en se disant tiens, je me suis renseigné 5 minutes, j'ai compris le problème, et puis je vais y aller à fond. Il faut vraiment bien essayer de se documenter pour bien comprendre le système, et ça évite de desservir les causes qu'on a envie de servir. Donc, essayer de bien se renseigner sur ces sujets-là, et ensuite être exigeant, notamment vis-à-vis des politiques. Encore une fois, quel que soit le parti, que ce soit des partis de gauche, du centre, de droite, enfin, chacun a sa vision du monde. Mais il est important d'être exigeant pour que tous les partis soient obligés de monter en compétence et de servir un discours qui soit aussi plus solide sur ces questions-là.
Alors des questions très rapides. Astrid, ça reprend un jour ou pas?
Alors bon, ça, je répondrai pas trop là-dessus. Non,
Ok.
le, le, le le projet. Il y a eu un projet de conception. À un moment, il s'est posé la question, est-ce qu'on allait plus loin, est-ce qu'on le construisait ou pas? La décision a été prise de ne pas le construire parce que l'estimation était que, il était trop tôt pour le faire. Mais là, de toute façon, ce qui structure l'approche sur les réacteurs de quatrième génération actuellement en France, c'est ce qui a été annoncé sur l'appel à projet avec les startups sur les réacteurs modulaires avancés, les AMR dont on a parlé tout à l'heure. Donc on a
Ok.
rouvert un peu le champ technologique. En fait, on s'est dit que quand je dis on, hein, c'est à l'échelle nationale, hein, c'est l'État et la filière, se sont dit que vu qu'on envisageait cette demande-là pour la deuxième moitié du siècle, on pouvait se laisser le temps de rouvrir le champ des technologies.
Il y a des IA qui aident à concevoir des fusées, Louis Pouzin nous demande, est-ce qu'il y a la même chose dans le domaine de l'énergie? Il y a des IA qui aident à construire des nouveaux réacteurs nucléaires?
Ça, faudrait demander à EDF. Les IA sont de plus en plus utilisées dans différents domaines. Alors j'imagine que là aussi, mais je suis pas compétent pour répondre.
Nucléaire, non. Ok. Est-ce que tu as un livre à conseiller?
Ah, des livres à conseiller,
Ah bah finir
j'en
comme
ai
tu
plein.
peux.
Alors, il y en a un qui est assez intéressant.
Le tien?
Non, je ne conseillerais pas moi. Je suis en train de chercher le titre. Mince. Ah!
Raconte le sujet et le chat devine le livre.
C'est à. Ouais, bah tiens, on va faire un bouquin écrit par un journaliste de Bloomberg, si je dis pas de bêtises, sur les négociants en matières premières. Oh là là.
Javier.
Javier Blas, oui, tout à fait.
Ah, tu vois, le chat est très très fort, hein.
Ah, vous êtes
Ils
doué.
sont pas hyper nombreux, mais ils sont très forts en général.
The World for Sale, qui est très bien. En fait, ça montre un aspect assez peu connu des matières premières et du pétrole, en fait, qui est le secteur des négociants en matières premières, donc Glencore, Trafigura, etc. Et comment les matières circulent entre les différents pays.
Et il est en version audio pour ceux qui écoutent en audio. Ok. Très bien. Des invités pour une prochaine fois? Tu aurais des idées pour moi?
Ouais, j'ai des idées sur des sujets de matériaux, par exemple, alors soit matériaux pour la transition, sur les plastiques, Kako Linda Naitali, que tu connais,
Ouais,
j'imagine.
ouais.
Elle, tu pourrais proposer aussi à Pierre Jérémy, c'est l'ancien directeur de cabinet adjoint d'Agnès Pannier-Runacher. C'est quelqu'un de vraiment brillant sur les questions énergétiques.
Comment t'écris?
Pierre Jérémy. Et donc maintenant qu'il est plus aux manettes, il est plus libre de sa parole. Et c'est quelqu'un qui a une vision vraiment très. Enfin, c'est un fin connaisseur des questions énergétiques et à la fois sous un angle technique et juridique. Donc il y a souvent des choses très intéressantes à partager.
Ok.
Voilà, de Nicolas Goldberg aussi qui est toujours intéressant.
Ouais. Après, il faut aussi que j'en fasse un peu moi. La prochaine fois, j'essaierai de porter un peu le truc. Et comme ça, je pourrais vous montrer aussi mes photos de vacances. Voilà. Venez vite plus nombreux.
T'es allé où?
Dans le sud de la France. Mais je prends des petites bêtes en photo. La dernière fois, ils avaient bien aimé. En plus, je veux pas spoiler, mais j'ai quand même une belle photo de lézard ocellé, qui est un truc un peu rare.
Ah
Qui est un
ouais.
truc un peu rare. Et donc j'étais content. Donc j'étais content.
Et tu l'as trouvé naturellement ou c'était dans un parc
Ah non, 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 c'est. Il aime bien l'endroit où j'étais, des milieux un peu ouverts comme ça. Mais c'est le plus grand lézard d'Europe. Et c'est assez beau, hein, c'est assez beau. Mais c'est un peu crâtif. Et en fait, il n'était pas très loin d'où j'étais. Et j'entendais du bruit en passant. Et j'ai essayé de m'approcher tout doucement en faisant le tour et tout. Et je l'ai vu. Ouais. Je n'ai pas encore la photo sur l'ordi. Mais. Ouais, désolé. Il faudra revenir la prochaine fois. Et cette année, ouais, j'ai pas. En plus, j'étais un peu triste parce que. J'ai pas tant de photos alors que j'y allais avec le gros téléobjectif là quand même. J'ai un téléobjectif géant maintenant. Et j'ai pas eu tant de belles opportunités. Tu vois, j'y allais avec ça quand
Ah oui. Ah, c'est du
J'ai
c'est du
monté en
gros
gamme depuis
matériel.
les dernières vacances. Mais j'ai pas encore sorti toutes les photos. Et je sais même plus
Mais
trop
tu
ce que j'ai.
fais beaucoup de photos?
Non, pas tant que ça, ce type d'occasion. Mais c'est vrai que j'ai investi dans un matos un peu plus gros là, pour monter un peu. Mais j'aime bien, je trouve que c'est une manière d'observer aussi la nature, quoi. Surtout que c'est assez impressionnant quand tu passes sur ce truc-là et sur des boîtiers. Parce que j'ai aussi un boîtier, un Alpha 7 R3. Donc un truc à haute résolution. Et en fait, je peux m'en servir comme jumelle, quoi. C'est un truc de fou. Je prends le téléobjectif, je regarde de l'autre côté de la rivière, je peux te dire si c'est. Si c'est une cissute d'Europe ou une tortue de Floride, tu vois. En fait, la tortue de Floride a une petite tache rouge là. Et en fait, à 15 mètres, je la vois avec le téléobjectif. Alors, je dis pas que la photo serait belle, tu vois, parce que
Ouais,
il est
parce
trop loin.
que t'as des questions de stabilité.
Ouais, et puis même, tu es obligé de zoomer dessus. Mais tu vois hyper bien. C'est un truc de fou. Et franchement, quand tu prends en photo je sais pas, des scarabées ou des papillons, t'es là, mais what the fuck, ils ont des poils sur les yeux en fait, tu vois, ouais, tu vois ce genre de truc. Ah, c'est trop marrant, c'est
C'est
trop
fou
marrant.
ça.
Et ouais, donc ouais, on a un gros téléobjectif
Bon après, faut le porter
qui
quand tu fais de la
est.
rando, quoi.
Ah ouais, j'avoue que moi, c'est un 150-600. J'avoue que moi pour l'instant j'avais plutôt tendance à me promener et à tomber un peu sur des bestioles et là faut le promener. Et puis quand tu commences à taper les écureuils en l'air là et que tu dois tenir le truc de 2,5 kg au-dessus de toi, je te garantis que tu découvres des muscles dans tes bras que tu n'avais pas avant.
Ouais, bah, j'imagine. Surtout si t'attends le bon moment pour prendre la photo.
Il me pose plein de questions. Alors c'est un 150-600, 1,563. 1, 5, 6, 3. Je sais même pas vous lire ça correctement, les gars. Je connais pas assez. Ouverture. Je dirais que c'est entre 5 et 6, 3. Je sais même pas où ça se lit là-dessus. Je pourrais vous donner. Bon, prochaine fois, je révise et je vous dirai exactement tout ça. Mais c'est impressionnant. Sigma 150, 600 de Sony. Attendez, c'est un. Ouais, c'est un Sigma. 156 de Sony. Ouais, je pense que c'est celui-là.
En tout cas, la
Révisé.
taille est impressionnante.
Ouais, c'est lourd. Ouais. Sur Sony, ouais. C'est un Sigma, mais c'est sur monture Sony. Le PSG a perdu. Ok. On pourra en parler. Alors, on parlera pas que de ça, mais on parlera
Du
rapidement de ça
PSG?
la prochaine fois. Non, 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 non. Des photos.
Parce que là.
Et je crois que j'ai surtout des fleurs et des insectes cette année. Parce que j'y vais pas souvent à cette période dans le sud et là il y avait beaucoup plus de fleurs. Et du coup je me suis fait éclater par les pollens, voilà, classique. Classique, classique comme move.
Bah pareil, là ça va un peu mieux, mais c'est vrai que les rhumes des foins, c'est terrible.
Ouais. Et j'ai lu quelque part que ça serait pire avec le changement climatique. Et il y a aussi de plus en plus de la population qui est touchée.
Bah ouais, de ce que j'ai compris, quand les plantes sont stressées par les conditions climatiques, elles émettent plus de pollen pour maximiser les chances de se reproduire. Je sais pas si c'est le cas, mais. Mais c'est vrai que ça fait quand même 3-4 mois pénibles hein, au printemps.
Alors, il y avait une dernière question. Vraiment, c'est la dernière qu'on prend. En plus, c'est une question un peu technique. Attends, faut que je la retrouve. Parce qu'après, tout le monde a discuté de mon bel objectif. Il fait quoi maintenant, Jérémy? C'est pas ça la dernière question, mais tu sais ce qu'il fait, le Jérémy dont tu as parlé?
Là, pour l'instant, non, je sais pas exactement.
Aïe, 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 il y avait une question sur... Allez, que pense Maxence de la stratégie d'EDF de se positionner comme constructeur mais pas financeur de projets en Union européenne? Notamment du Kovnik, Okil Yoto, HPC, SWC, etc.
Bah, EDF, enfin, n'a pas vocation a priori à être financeur. Enfin, c'est pas une banque. En fait, dans les offres intégrées à la russe ou à la chinoise, vous avez le gouvernement qui est derrière, donc vous pouvez avoir des offres de financement comme ça. EDF peut proposer des technologies, peut construire, peut éventuellement exploiter, etc. Mais après, la question du financement, c'est une question séparée. EDF a financé sur fonds propres deux réacteurs à Hinkley Point. Ce qui a été difficile, mais ils l'ont fait parce que bah, c'était stratégique à ce moment-là. Mais cette approche-là conduit aussi à un prix du. Bon, déjà, c'est pas possible de financer plusieurs réacteurs comme ça, enfin, sur le bilan d'une boîte privée. Et ça conduit aussi à un coût du mégawattheure plus élevé parce que EDF emprunte sur les marchés à des taux qui sont plus élevés que ceux des pays. Donc, si on veut avoir accès à de l'électricité nucléaire bon marché, il va falloir aussi avoir des systèmes de financement qui soit soutenu par les États avec des partages de risques, etc. Donc,
Ok.
mais c'est pareil, en fait, je pense je connais pas très bien les offres américaines et coréennes, mais j'imagine que c'est pareil. En fait, ce sont surtout les. Quand vous avez une boîte publique avec l'État qui est derrière, des fois, enfin, Chine et Russie, vous avez des offres plus intégrées, mais.
Ok. Bah, je crois qu'on va arriver vers la fin. Hein. 23 h, c'est déjà pas mal. Bah, merci beaucoup quand même de t'être prêté au jeu, d'être venu comme ça bénévolement prendre plusieurs heures sur cette chaîne pour parler à un petit public. C'est sympa. Il y a plusieurs personnes, ouais. J'avais vu aussi quelques messages qui te remerciaient pour ta vulgarisation sur Twitter. Et là, Amiel Noix, avant même que je te dise au revoir, disait merci pour l'émission, super intéressant d'avoir un invité pour parler de sujets spécifiques. Merci Maxence également, c'est une excellente ouverture à des livres et conférences sur ces sujets que je voulais aborder depuis longtemps.
Ben
Donc
merci
là, tu as
beaucoup à vous,
plein de remerciements.
et merci à toi pour l'invitation, surtout Rodolphe, et puis pour ces 2 3 heures
Les questions précises sur
à
l'UPR, je ne
discuter.
sais même pas si c'était ta communauté ou la mienne, mais je crois que tu es venu un peu avec tes fans aussi. Moi, je vais vous envoyer voir, j'ai pas trop d'idées, voir Angle Droit, voilà, une ancienne de la Vulga. Je sais pas ce que, sauf s'il y en a qui ont des bonnes idées de raid, je suis encore preneur des suggestions, mais il faudra attendre qu'ils tapent, parce qu'en fin de live comme ça sur Twitch, on doit envoyer notre public vers une autre chaîne. C'est la
Le
tradition sur
bétonnier,
Twitch.
je ferai passer le message.
Est-ce que nos deux... Ah, c'est une bonne question ça de Midship. Est-ce que nos deux communes sont distinctes? Tu penses
Ça, je
que...
sais pas. Enfin, oui, j'imagine, parce que tu traites plus. On traite. Il y a des sujets de recoupement, mais. Et puis, on n'est pas forcément sur les mêmes réseaux non plus. Je suis plus sur LinkedIn, toi, sur YouTube, mais. Bon, après, ce sont quand même des gens qui s'intéressent aux questions énergie-climat, donc.
Ok.
Sais pas.
Perso, je suis les deux. Merci pour cette discussion et pour la petite sensibilisation. Lors d'un cours au CNAM Formation Matériaux, et t'as des anciens élèves.
Eh bien, c'est là que tu vois que tu vieillis quand t'arrives à croiser des anciens
Ouais.
élèves parce que. Il n'y en a pas non plus des masses dans les écoles.
Ah, tu vieillis aussi quand t'es face à eux, hein. Et aussi quand t'as des rêves qu'ils ont plus, quoi. Et là, je fais...
Ouais, bah
Ouais.
j'entendais là votre échange avec Guillaume dans le
Ah
dernier live. C'est vrai que des fois tu dis, ah tiens, ça, tu fais une belle rêve, tu es fier de toi, et puis ça fait un flop. Bon.
Bon allez, je vous envoie voir Monté. Vous pouvez lui dire coucou de ma part. Il doit savoir à peu près qui je suis. Il a fait une bonne vidéo sur le nucléaire, sur
Qui
la
ça?
mémoire montée de Linguisticae.
Ok.
Linguisticae, une chaîne de linguistique. Et il a fait une vidéo d'une heure et demie sur CIGEO et la gestion de la mémoire, quoi. Et ce qu'il faut
Ok.
oublier et tout ça. C'est assez intéressant. C'est assez complémentaire de ce qu'on a vu dans nos sphères plus techniques. Donc voilà, vous pouvez aller lui dire bonjour. Et donc, tout le monde est monté dans le raid. Donc c'est le moment de vous dire au revoir et à la semaine prochaine. Maxence, un petit au revoir pour
Merci
la
beaucoup.
fin.
Merci beaucoup à toutes et à tous. Et puis bah bonne fin de soirée et encore merci Rodolphe.
Ça marche. Allez,
Salut.
salut à tous, à la prochaine.
Ciao.